Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur Radio Terre de Mix pour une émission particulière. Ça s'appelle Enquête de terrain. Ce sont des nouvelles émissions et un nouveau concept. On va s'intéresser à rentrer dans l'univers associatif et à comprendre un peu mieux comment ça fonctionne pour tout simplement vous aiguiller et vous éduquer et vous transmettre un certain nombre d'informations et de connaissances et de savoirs. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Moi, c'est Bruno Raphaël de Villers. Je suis animateur à la MJC de Limours et aujourd'hui, on a la chance, l'honneur et l'avantage de recevoir pas mal de monde qui vont nous parler du monde des MJC. Aujourd'hui, nous sommes des associations. On va s'intéresser précisément à la Fédération régionale des MJC d'Île-de-France qui va organiser prochainement un congrès pour inventer l'avenir des MJC. Et effectivement, beaucoup de questions se posent à l'heure actuelle sur l'avenir et le devenir des MJC. Et on a décidé de contribuer un petit peu à cette réflexion globale en vous proposant une émission qui va permettre de vous faire comprendre un petit peu mieux les enjeux qui arrivent dans les semaines à venir, mais aussi le souhait et la volonté de vouloir réinventer les MJC parce qu'il faut qu'elles se réinventent. En tout cas, c'est peut-être ce que l'on va voir avec l'ensemble de nos invités. On a beaucoup de monde autour de la table, et en tout cas des tables. Nous sommes situés donc dans la MJC de Limours et plus précisément au studio, dans notre salle de spectacle. Et on est ravis de pouvoir vous y recevoir. Alors, je vais commencer par ma droite, temporellement et dans l'espace. Il s'appelle Charles Henry. Il est président de la MJC de Palaiseau, vice-président de la Fédération régionale Île-de-France et président, il me semble, de l'Union départementale de l'Essonne, donc pour les MJC. Bonjour Charles Henry, je vous en prie. N'hésitez pas à vous présenter. Alors, vous êtes là pour notamment présenter une intention. On va en revenir dessus dans quelques instants. Mais juste comme ça, pourquoi avez-vous accepté de participer à cette émission aujourd'hui?
D'abord, bonjour à tous. Le média radio permet de toucher beaucoup de monde. Et puis, cette émission aujourd'hui est absolument nécessaire pour le dialogue, pour l'éducation populaire, pour échanger, dans la mesure où, justement, il s'agit de comprendre un petit peu mieux et d'échanger pour construire ensemble. Et l'émission de radio, pour ceux qui ne peuvent pas venir, c'est évidemment le meilleur média.
Merci Charles-Henri. Alors du coup, à côté de vous se trouve Max Le Guem qui représente la CGT FERC MJC. Bonjour Max Le Guem, même question. Quel est votre objectif? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui?
Eh bien, en fait, mon objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir un débat entre nous et qu'il puisse être entendu par les MJC. Il se trouve que, vous voyez, aujourd'hui encore, on avait invité 8 MJC à venir. On est vraiment trop peu nombreux. Ce qui prouve bien qu'il y a aujourd'hui dans les MJC un vrai problème par rapport au travail intellectuel. Je pense qu'il faut que les MJC redonnent une vraie noblesse au travail intellectuel. Nous avons des bénévoles qui nous donnent des trésors d'attention, de temps par rapport à tout ce qui est pratique, organisation de manifestations, de fêtes, etc. Malheureusement, dans les MJC aujourd'hui, dès l'instant où on veut prendre un peu de temps pour pouvoir réfléchir ensemble, bien, ça devient très compliqué. J'ai l'impression que c'est pareil pour tout le monde, quoi. Donc, on s'est dit qu'il était intéressant qu'une émission de radio, bien, au moins, ça va permettre à d'autres MJC de pouvoir, s'ils le veulent ensuite, réécouter et avoir, avant le congrès, bien, un temps où ils auront pu entendre un certain nombre d'éléments par rapport aux textes qui sont déposés.
Merci Max Le Guem pour ces informations. Juste une petite précision, donc le congrès lui aura lieu le 8 et le 9 avril prochain 2016 à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Je passe le micro, il suffit juste de tourner le pied pour garder l'équilibre. Voilà, c'est une question technique, c'est pas très radiophonique, mais je vous en prie. Je vous en prie, présentez-vous du coup.
Bonjour à tous, donc moi c'est Laure Di Franco, je suis directrice de MJC, actuellement dans la formation de cadre en éducation populaire qui a été redéveloppée, et aujourd'hui je suis présente parmi vous pour participer au débat en perspective de ce congrès dans le cadre d'une contribution que nous portons au sein du syndicat CEPUNSA, le syndicat d'éducation populaire. Voilà.
Bien, passe le message à ton voisin, dit-on.
Oui, bonjour. Bonjour. Donc Georges Porcheret, également directeur de MJC et également porteur de l'intention, c'est comme ça.
Très bien. Votre collègue sur votre droite.
Alors, moi, je m'appelle Carole Franck, je suis élue à la MJC de Pont-au-Combeau, en Seine-et-Marne.
Je vous demandais de vous rapprocher un petit peu de l'écho, excusez-moi.
Voilà. Allez. Donc, je suis élue à la MJC de Pont-au-Combeau, en Seine-et-Marne. Je suis élue à l'UD MJC 77 également et je suis administratrice fédérale. Et je viens pour l'intention tous délibérants qui est portée avec la voisine de la Fédération, ainsi que le directeur régional et le président de la Fédération.
Très bien, donc on les citera par la suite. Je vous en prie, alors, n'hésitez pas à vous rapprocher, voilà, parce que l'idée, c'est qu'on capte tout ça.
Oui, bonjour à tous, donc moi c'est Danielle Peters, je suis à la fois présidente d'un foyer de jeunes travailleurs dans le 20e, co-présidente d'une maison de jeunes et de la culture dans le 20e, et trésorière de la Fédération régionale des maisons de jeunes. Voilà, et c'est fervente association, la 1901, etc.
Merci beaucoup. Donc voilà, on a fait le tour un peu des personnages qui vont intervenir, mais pas que, parce qu'il y a un petit peu de gens quand même dans l'assemblée, et s'ils souhaitent intervenir, pardon, ils le pourront. Ce que je vous propose, c'est que pour nos chers auditeurs, parce que tout ça voilà, va peut-être vous paraître un peu compliqué, on va peut-être partir du début. On parle d'éducation populaire, on parle de MJC, et on parle aussi de bénévoles. D'ailleurs, j'en profite pour saluer le travail de Céline et de Gaussiaka qui nous ont aidé à préparer cette émission. Et donc voilà, c'est important de le souligner. Merci à elle. Alors, qu'est-ce qu'une MJC ? Les Maisons des Jeunes et de la Culture sont des associations d'éducation populaire qui travaillent à l'émancipation individuelle et collective de tous. Les Maisons des Jeunes et de la Culture sont des associations loi de 1901 rattachées au ministère des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Elles fonctionnent avec les cotisations de ses adhérents, les subventions municipales et autres institutions. L'agrément du ministère des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports permet à l'association d'obtenir la reconnaissance de l'intérêt général de son action et son fonctionnement. Les Maisons des Jeunes et de la Culture sont ouvertes à tous. Elles offrent à la population, aux jeunes comme aux adultes, en prenant conscience de leurs aptitudes, la possibilité de progresser à tout âge de la vie. Elles visent notamment à développer la personnalité de chacun dans la convivialité en développant l'ouverture au collectif, au monde, aux idées et aux sensibles afin de devenir citoyen actif et responsable d'une communauté vivante. Les MJC, enfin, s'inscrivent pleinement dans une démarche éducative. Alors, tout ça vient des sources de MJC Île-de-France.org, donc le site de la fédération, notamment. Qu'est-ce que ça vous inspire à l'heure actuelle ? Est-ce qu'on y est toujours, d'après vous, et qui souhaite répondre, mais est-ce qu'on y est toujours par rapport à cette définition-là ? Et peut-être que ça va nous permettre de voir un peu en quoi vos intentions, puisque vous allez nous en parler, et on va essayer d'expliquer aussi la différence entre intention et contribution. Mais voilà, j'ai envie de vous faire réagir par rapport à cette petite définition. Est-ce que vous en êtes toujours d'accord avec ça ? Qui souhaite intervenir ? Charles-Henri ?
Bien commencer le tour de table. Alors, est-ce qu'on est toujours dans l'éducation populaire, dans les intentions des uns des autres, dans le travail des professionnels bénévoles ? Oui, bien sûr. Dans les relations avec les municipalités, bien sûr, qu'on avance toujours cet objectif et cette pratique des questions populaires. Maintenant, la réalité est évidemment très variable d'un endroit à l'autre. Entre une invitée à Limours, dans un cadre particulier, une commune sans doute importante mais petite, comparée par exemple à Rex-Orangis, pour rester dans l'Essonne, ou pas les eaux où je suis, c'est pas du tout le même type de trajectoire historique, c'est pas le même type d'activité, mais il y a cette même volonté. Donc ça, c'est important de tenir compte de la diversité, c'est notre geste, on est des établissements de proximité, et on reste absolument à devenir, en tout cas, ce que j'ai compris dans toutes les intentions et contributions. Et voilà. Sur maintenant, au-delà de la déclaration d'éducation populaire, on est des super maisons stars, oui, on rencontre des difficultés de plus en plus grandes, éventuellement, pour mener à bien cette mission, parce que les financements publics sont... ont tendance à se réduire, bon, donc c'est un peu plus difficile. À faire appel à nos adhérents en termes de cotisation, selon les endroits, selon la population, c'est plus ou moins praticable, compte tenu de la crise économique, on est bien d'accord. Donc là, notre indépendance est un petit peu malmenée. D'autre part, les services publics sont quand même pas nécessairement en très bonne forme, donc les élus ont tendance à vouloir s'appuyer sur certaines associations comme l'indicé pour être le relais de leur politique. Nous, évidemment, on est partenaires, donc effectivement, la question du partenariat et donc de l'éducation populaire est de plus en plus posée. Par ailleurs, dans une société où des individus sont de plus en plus soumis à des contraintes de transport, notamment en Île-de-France, ils ont besoin de se divertir et donc de plus en plus, dans certains endroits en tout cas, ils pratiquent un effet qu'on appelle une activité qu'ils pourraient éventuellement pratiquer ailleurs, si ça existait ailleurs, mais semble éventuellement être complètement intégré à la notion de maison pour tous ou maison de gestion populaire. Et donc on a un petit peu de mal à retrouver cet esprit d'imagination au-delà de la consommation de divertissement. Donc on a effectivement un enjeu là à l'époque.
D'accord, donc si j'ai bien suivi, dans l'idée, vous dites qu'à l'heure actuelle, le danger qu'on a, c'est que les gens ne sont peut-être pas vraiment informés, finalement, du jeu où ils sont et ce qu'ils peuvent en faire. Vous êtes d'accord avec ça, M. Le Guen?
Donc, je pense qu'il y a dans ce que tu as dit au départ, lorsque vous avez présenté les MJC, je dirais que lorsqu'on écoute ça, c'est quelque chose qui va pour nous de soi. Vous dites émancipation individuelle et collective, faire en sorte de vivre dans une société plus solidaire. Bon, toute une série de choses qui sont pour nous des évidences et qui ne sont plus malheureusement des évidences. Donc, nous avons changé de société. C'est-à-dire qu'à l'époque où on a créé les MJC, après-guerre, tout ce qui est dit là, c'est vraiment une volonté très forte qui est portée par une société tout entière. Hein, il y a une nouvelle constitution, on vient de mettre en place un programme qui est le programme de la résistance, de la sécurité sociale. Enfin, il y a une idée de plus jamais ça, donc il y a une idée émancipatrice très forte et puis il y a une expansion économique aussi très très forte. Bon. Donc tout ce qui est dit là va de soi et la MJC, elle accompagne ça. Aujourd'hui, tout ce qui est dit là ne va plus de soi. Voilà. Une société solidaire, j'estime que nous sommes de moins en moins dans une société solidaire. Travailler à l'émancipation, ça devient très compliqué. C'est-à-dire que dans le mot éducation, il y a d'abord éducation populaire, il y a d'abord le mot éducation. Transmettre les normes et les valeurs d'une société. Quelles sont les normes et les valeurs d'une société à transmettre aujourd'hui? Je dirais que très longtemps, qu'il y a fait un socle commun entre nous, les maires, etc., c'était le fait qu'on était sur une croyance qui était que l'homme se transforme. Alors, c'était ça notre croyance commune, avec des maires de gauche, de droite, etc. Et donc on travaillait ensemble parce qu'on pensait que ça valait le coup d'éduquer, puisque l'homme se transformait, et donc il fallait des lieux dans lesquels eh bien, on travaille à cette transformation, ce qu'on appelait émancipation. Aujourd'hui, je constate que dans l'esprit de plein de gens, et notamment de certaines villes, on ne croit plus à ce que l'homme se transforme. Donc, lorsqu'on pense que l'homme ne se transforme plus, on ne crée plus des lieux d'éducation. On va créer des polices municipales. C'est-à-dire, on part que les gens qui ont les soirées. Voilà, hein, c'était l'idée. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous allons mal parce que nous sommes à contre-courant d'une société. C'est ça qu'on dit dans notre intention. On fait un diagnostic et le fait de dire si nous allons mal, c'est parce que ce qu'on prône aujourd'hui va à contre-courant d'une société. Et on le voit très bien, puisque les MJC, on les ferme les unes après les autres, et en Essonne, nous en sommes en l'espace de un an à la troisième MJC fermée de façon très brutale par une maison.
Merci, Monsieur Le Guen. Je rappelle que vous intervenez donc au nom de la CGT. Ferk, on va passer le micro à Laure. Vous, par rapport à ce que vous venez déjà d'entendre, et puis même par rapport à cette définition type d'AMJC, puisque voilà, on est dans un pays qui est quand même assez institutionnalisé, où on aime bien justement les normes, les cadres, et qu'il faut tout nommer, tout encadrer, on verra, on en discutera tout à l'heure. Mais où votre position par rapport à cette définition-là? Parce qu'effectivement, l'idée de monter un congrès par la suite, c'est tout en se posant un certain nombre de questions. Et est-ce que déjà, par rapport à l'essence même des MJC, à ce qu'elles sont, est-ce qu'elles sont toujours ça à l'heure actuelle?
Par rapport à la définition que vous avez exposée tout à l'heure, je pense que certaines ne sont vraiment encore complètement et pleinement, et que d'autres ont pris des chemins différents, mais que ces questionnements, par contre, traversent l'ensemble du réseau. Parce qu'un peu comme le disait Max, le constat aujourd'hui d'une incompréhension globale de ce qui est en train de se jouer nous interroge dans nos pratiques et interroge aussi les administrateurs bénévoles qui se trouvent dans des situations vraiment délicates avec les collectivités et qui ont du mal à pouvoir exprimer clairement quelle est la position qui est portée, où on va et dans quel sens. Donc, tout ça, c'est vraiment au travail. On pense également que cette définition se doit d'être réaffirmée, parce que malgré tout, vous parlez tout à l'heure de normes et de choses bien construites, de tout ça cadré en France, une MJC, mais en même temps, une MJC, c'est, pour beaucoup, c'est pas suffisamment clair de ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de services municipaux qui portent le nom MJC et on ne fait pas le même travail quand on est dans un service municipal qu'au sein d'une association. Donc ce travail de redéfinition, réappropriation et réaffirmation, je dirais, de ce qui nous constitue profondément, est vraiment très important dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, encore plus qu'hier. Parce qu'il y a une confusion, en fait, qui s'est vraiment inscrite avec le temps.
Donc vous confirmez que c'est un état d'esprit, on va dire, régional en tout cas pour ce qui concerne cette volonté de congrès, mais elle peut même s'étendre au national, si je vous suis.
Oui, tout à fait. Mmh. Oui, et alors pour les illustrations, il y a eu cette dimension de travail en congrès aussi sur la Fédération Rhône-Alpes, il me semble, et forcément ça va irriguer notre réseau national, on le verra peut-être un peu plus tard, mais il y a certaines des intentions des constitutions, malgré tout, qui posent très clairement, sans revenir dans toute l'histoire, mais la volonté qu'il y ait une seule fédération de MJC nationale qui réunisse l'ensemble des MJC du territoire, et pas une confédération et une fédération. Donc c'est vraiment une préoccupation nationale qui dépasse la région Île-de-France, mais qui s'inscrit dans une volonté très très locale, puisqu'elle est portée par des personnes qui sont au sein des maisons dans notre territoire et dans d'autres territoires.
Très bien, je vais donner la parole peut-être la contribution, on va dire, ou l'intention de la FED, histoire d'être en équité en termes de parole.
C'est pas
vraiment la FED, justement.
Non, c'est pas du tout la FED.
Il faut m'expliquer, justement, parce que ça, j'ai pas compris, moi.
Ah, vous expliquez tout.
Voilà, expliquez-moi.
La fédération, c'est un ensemble de maisons.
Oui.
Avec un ensemble de bénévoles, de professionnels qui l'animent.
Bon, je vous donnerai les chiffres tout à l'heure.
L'intention qu'on représente avec Daniel est portée par quatre personnes. Il y a deux administrateurs fédéraux. Du CA, il y a le président et le directeur régional. Pour autant, ce n'est pas la fédération.
D'accord.
Merci, il n'y a pas de votre fond d'être. Hein, ouais. C'est juste pour faire
la vous comprenez, c'est pour ça que c'est volontaire de ma part. Hein. L'idée, c'est un peu de... Voilà. Bien évidemment, mais justement, par rapport à ce qui vient d'être échangé entre les positions des syndicats et puis par rapport à la MJC de Palaiseau, autour de cette définition, je suis désolé d'insister là-dessus, mais il faut bien qu'on parte du départ. On parlera aussi de l'éducation populaire après, ça sera évident, mais on va aussi s'intéresser au vif du sujet, c'est-à-dire les intentions que vous proposez et que vous suggérez pour réinventer l'avenir des MJC, mais justement, votre point de vue, votre positionnement.
Bien, parce que de toute façon, on est là tout autour de la table et je pense qu'on porte tous la même envie de redynamiser, mais je veux dire de réaffirmer un peu, je veux dire, ce que sont les maisons des jeunes et de la culture, puisque bon, même notre intention voudrait parler des cultures plutôt que de la culture, comme ça on en parlera
plus longuement
après. mais c'est vrai que bon, on arrive à un tournant, 1901, c'est loin derrière nous, mais nos maisons ont besoin de désir de se réaffirmer à la fois dans leur arrondissement, dans leur territoire, et j'allais dire sur le plan national.
Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, je disais, par rapport aux chiffres, juste pour vous donner quelques informations, donc les chiffres de la Fédération régionale d'Île-de-France, c'est un réseau d'associations donc, locales et départementales, 5 centres d'animation à Paris et un cyberlast, pardon. Il y a 89 associations locales agréées jeunesse et éducation populaire, donc 83 MJC, 4 unions ou fédérations départementales, 2 unions locales, soit 92 équipements au total sur le territoire. Un réseau humain et citoyen, puisque 4000 bénévoles, 1520 élus associatifs, 4000 salariés dans les associations affiliées, dont 160 salariés de la fédération elle-même, 70 cadres de l'éducation populaire, 75 000 adhérents, 200 000 usagers et enfin 475 000 usagers occasionnels. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Soit à peu près 1 million de Franciliens qui fréquentent les MJC, dont 41% sont des jeunes de moins de 26 ans. Alors, on parle de vos fondements, de vos bases, et on a parlé d'un mot un peu... d'une terminologie, on va dire, l'éducation populaire. On va s'intéresser de la même manière, vous avez compris un peu ma pédagogie, on va partir de d'une définition. Alors, c'est une définition qui vient d'un endroit, on va dire, qui n'est pas forcément réputé pour avoir une information très juste et très affirmée, mais comme elle nous provient d'un site donc Wikipédia, qui est quelque chose de très lu, et le premier réflexe que vont avoir, on va dire, les gens qui recherchent vont tomber sur cette définition-là. Donc c'est exprès aussi qu'on aille sur cet axe-là. L'éducation populaire est en France un courant de pensée qui cherche principalement à promouvoir, en dehors des structures traditionnelles d'enseignement et des systèmes éducatifs institutionnels, une éducation visant à améliorer le système social. Depuis le 18e siècle occidental, ce courant souvent l'idée traverse de nombreux et nombreuses et divers mouvements qui militent plus largement pour le développement individuel des personnes et le développement social communautaire dans un quartier, une ville ou un groupe d'appartenance religieuse, d'origine géographique, lieu d'habitation et un certain nombre d'autres, afin de permettre à chacun notamment de s'épanouir et de trouver une place dans la société. En France, tout au long du XXe siècle, l'éducation populaire s'est d'abord organisée autour de trois grands courants idéologiques, le christianisme social, dont la dimension intellectuelle est illustrée notamment par le personnalisme autour de la revue Esprit ou encore le scoutisme. Les mouvements laïcs autour de la Ligue de l'enseignement, les Francas ou encore les CMA, et enfin les mouvements ouvriers et plus particulièrement la CGT et un organisme et ses organismes spécialisés. Donc voilà, ça vient de Wikipédia. Voilà la définition qu'on peut trouver, condensée bien évidemment, de l'éducation populaire. On ne va pas rentrer dans le détail, on va refaire un tour sur tout ça. Vous en parlerez bien évidemment, puisqu'on va le retrouver dans vos fameuses intentions. Puisqu'il y a des moments on s'y réfère assez souvent. Alors, je ne vais pas m'amuser, moi, à vous faire une définition et une synthèse de vos intentions. Vous êtes là, ça tombe bien, vous êtes là pour en parler. Donc, je vais vous demander à tous, chacun votre tour, bien évidemment, et en essayant de respecter un temps de parole équitable, de présenter un petit peu vos intentions, et ensuite, je rentrerai dans une phase de questionnement par rapport à ce que vous avez échangé. Cela dit, toutes ces démarches, c'est très intéressant, mais intention, contribution, au début, j'ai eu du mal à comprendre. Et je pense que pour les gens, ça serait bien de leur expliquer la donne. Est-ce que quelqu'un veut se lancer dans cette explication-là, d'une manière simple, assez synthétique, mais qu'on comprenne bien la différence entre intention et contribution, et peut-être à quoi ça va servir, peut-être. Sans parler des propositions, mais voilà.
Alors, du coup, je me permets effectivement de reprendre la parole sur ce sujet-là, parce qu'un des principes, quand même, au sein de la fédération et dans nos maisons, c'est toujours de travailler à la construction d'espaces un peu expérimentaux, et ce travail-là, on le fait en général de manière un peu commune, et des fois sous forme de commission. Donc, pour la mise en place de ce congrès, qui est le premier congrès que va vivre la fédération régionale des MJC en Ile-de-France, a été construite une commission qui réunit des administrateurs et des professionnels des maisons qui ont souhaité s'y engager pour élaborer un petit peu le processus qu'on proposait de vivre à l'ensemble des maisons du territoire.
Juste, excusez-moi de vous couper, oui. Peut-on rappeler à quand date le dernier congrès organisé par la fédération?
Alors, moi, de mon histoire, j'ai pas toute l'histoire, mais de mon histoire assez récente au sein de la Fédération régionale des MJC en Ile-de-France, il me semble qu'il n'y en a pas eu.
D'accord.
Voilà. Mais apparemment, je n'ai pas toute l'histoire.
Eh oui. Le dernier congrès qui a été organisé, il a été organisé à l'époque où nous étions à la Fédération française, il date de 1977. Il a été approuvé ensuite en Assemblée générale en 1978. Ça veut donc dire que c'est pas rien de faire un congrès, hein, c'est un événement, c'est une rupture dans l'espace-temps. Voilà, hein, et depuis que nous avons fusionné en 1993, il n'y a jamais eu un congrès. Donc là, il y a quelque chose qui me semble être un événement important.
C'est un peu l'équivalent de l'espace d'une roue.
Merci Jean-Marie pour cette intervention. Excusez-moi alors, allez-y, on va couper même. Dans le...
La précision est importante. Voilà, nous cette commission a longuement réfléchi à comment effectivement on pouvait permettre et faciliter l'engagement de toutes les personnes qui voulaient participer. Et donc on s'est dit, mais après il faudra l'analyser a posteriori. Et d'ailleurs il y a un travail de recherche qui est conduit autour du congrès pour effectivement voir comment ce que ça a produit et comment on peut le pérenniser ou le transformer, le faire évoluer et qu'est-ce que ça nous a amené à faire. Mais donc on a proposé qu'il y ait deux phases, enfin deux étapes un peu différentes, une étape d'intention, l'intention étant en fait un texte qui propose un certain nombre d'éléments, une orientation autour de presque, j'ai envie de dire, l'ensemble des questionnements qui nous traversent, c'est-à-dire l'action des MJC, le sens de l'action des MJC, la question des territoires, le lien avec les territoires, la question de la l'organisation de l'ensemble des acteurs, des bénévoles, des professionnels, les enjeux économiques, bien évidemment, et également ben, la structuration de l'organisation de la fédération. Donc, les intentions avaient plutôt vocation à répondre à l'ensemble de ces questionnements et permettre derrière à d'autres acteurs de prendre une position à travers des contributions, qu'il soit que sur un objet ou sur deux ou trois objets, ou qui viennent en réponse ou en écho à des intentions, ceci se rencontrant au moment, avant le congrès pour ceux qui le souhaitaient, et au moment du congrès pour essayer de constituer des textes d'orientation qui seront ensuite soumis au vote à l'Assemblée Générale. Donc on est sur un premier niveau effectivement d'intention avec des personnes qui portent quelque chose d'assez large et très global, et des contributions qui peuvent être plus partielles et s'agglomérer à des intentions ou pas. Enfin, j'espère que c'était assez clair, parce que c'est pas si simple.
C'est vrai que c'est pas si simple, mais j'ai un peu mieux compris la donne. Disons que sur cette notion d'intention, en gros, il y a tout un questionnement qui est fait au niveau de la fédération, quelque chose qui est repensé, l'idée de repenser les choses. Donc, vous avez soulevé un certain nombre de questions que vous avez citées et que vous avez interprétées. Maintenant, l'idée, c'est de dire, voilà, on a des intentions, ces intentions, on va les exprimer, et ensuite, certains peuvent contribuer aussi à ces intentions ou être en écho ou en contradiction. Je vous donne la parole dans quelques instants, Max. Par contre, moi, il y a un truc qui m'interroge. C'est le contexte de... Voilà, il y a 92 équipements, enfin 83 MJP en tout cas, et grosso modo, j'ai 4 intentions. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà. Oui, en même temps, c'est vrai que chaque structure est déjà très engagée localement, et il y a déjà beaucoup de choses à faire. C'est pas forcément toujours évident de porter une intention, puisque l'enjeu de porter une intention, c'était aussi de se dire, derrière, on va se donner les moyens, si c'est celle qui est retenue collectivement, de la mettre en œuvre, et donc de la mettre en œuvre au niveau fédéral, avec un travail qui sera forcément important. Donc c'est la capacité, alors on peut dire deux choses, c'est soit la capacité de se libérer du temps pour s'y consacrer, et puis c'est derrière la question de la prise de responsabilité. Donc voilà, c'est les deux freins qui probablement... compte qu'il y ait 4 intentions. En même temps, 4 intentions, c'est déjà bien. Enfin, je veux dire, ça veut dire qu'il y a quand même... c'est déjà quand même pas mal. Et surtout, elles vont susciter derrière et permis derrière quand même des prises de position, des débats, des discussions, et c'est pas fini. Donc, voilà.
On va passer la parole. Rappelez-moi votre prénom, ça va venir.
Carole,
c'est ça. Je ne voulais pas dire de bêtises. Carole, vous pouvez intervenir. Ensuite, on donnera la parole à Max.
On finit toujours par donner la parole à Max. juste une petite incise à ce sujet-là. En tant qu'administrateurs fédéraux, on porte nos maisons aussi. C'est-à-dire, moi, quand je suis au CA fédéral, je suis la représentante de ma maison. Ma maison, elle a une politique. La politique, je la porte à l'intérieur de ma maison. Quand je m'associe à une intention, il est bien évident que je ne représente pas la totalité des adhérents, ni même de mon CA, mais malgré tout, quand on vient comme ça et qu'on participe à une intention, on est porteur aussi des valeurs qui imprègnent nos maisons. Donc en fait, on ne vient pas seul. Moi, je n'ai pas de mandat. La raison pour laquelle je suis au CA fédéral, ce n'est pas parce que je suis Carole. Je suis un membre de ma MJC.
Vous êtes impliqué. C'est votre conscience professionnelle. Comment on peut définir ça?
Non, alors bénévole et professionnel, comment on dit? Sauf que je suis très mal payé en tant que bénévole. Hein. Donc non, mais ce n'est pas une question de conscience, c'est une question de mandat. J'ai été mandatée pour ma maison, ouais, pour la représenter d'une certaine manière au CA fédéral, et c'est aussi le sens de la fédération. Enfin, la fédération, c'est un ensemble de maisons qui se retrouvent. Donc, quand on est porteur d'une intention comme ça et qu'on est élu d'une maison, on ne représente pas que nous-mêmes, quoi. On représente une partie au moins de notre maison et au moins l'esprit qui imprègne notre maison. Donc, je ne pense pas que... Nous, on est sur une intention, on n'est que 4, donc c'est vrai que c'est une intention riche en pages, mais, plus modeste en nombre de contributeurs. Mais pour autant, je ne pense pas qu'on représente la pensée de 4 personnes. On représente beaucoup plus que ça, et chacun à notre niveau, on représente des courants de pensée qui traversent la fédération, et puis on n'est pas toujours tous d'accord entre nous, mais on propose une richesse qui n'est pas celle uniquement de 4 personnes.
Merci pour ce complément d'information, hein, Carole. Je suis désolé d'avoir fait un petit. J'avais appelé l'aspect, vous êtes bénévole et non pas professionnel.
Non, mais des fois,
c'est de ma part, je
m'excuse. Parfois, j'ai besoin de.
Oui, oui, surtout à l'humour. Non, je déconne. Justement, Max Le Guay, vous souhaitiez intervenir. Alors, voilà. Parce qu'après, pour enchaîner, il va me tuer après. Vous souhaitez intervenir par rapport à ce qui a été dit, à ce qui a été échangé, voilà, notamment sur la notion peut-être autour des intentions, des contributions et du nombre de participants et de propositions d'intentions.
Oui, moi, je partage ce que vous dites là, par rapport au faible nombre de textes. Moi, je pense que il y a 30 ans, on aurait fait le même congrès il y a 30 ans, vous auriez vu qu'il y aurait eu bien plus de textes. Je pense que lorsqu'on discute avec des bénévoles de MJT ou des salariés de MJT, ils ont tous des idées, ils ont tous des avis. Je dirais des avis divergents, c'est normal. La fédération des MJT est une institution démocratique. Donc, et démocratique, une société qui se reconnaît divisée. Bon. Donc, il est tout à fait normal qu'il y ait entre nous des points de vue différents. En plus, vous l'avez très bien dit, l'éducation populaire est portée par des courants très différents qui sont le courant républicain laïque, le courant du catholicisme social et le courant ouvrier socialiste. Pardon. Donc il y a en fait entre nous des divergences évidentes, et c'est très bien. Et c'est très bien qu'on les vive ensemble. Là, ce qui n'est pas bien, c'est qu'à un moment donné, les gens avancent masqués et que ces divergences de vues ne soient pas exprimées. Parce qu'à un moment donné, elles s'expriment tous les jours, sauf qu'elles ne s'expriment jamais là où il faut. Normalement, il y a des instances qui devraient être des instances démocratiques, de débat, dans lesquelles on devrait discuter ensemble, débattre de lignes différentes, politiques, ensuite arriver à des compromis lorsqu'on peut, mais des fois exprimer un désaccord, et ce n'est pas grave, et voter et trancher les désaccords. Lorsqu'il y a un vide, il y a un vide de débat, mais il y a aussi le vide du fait que les idées et les divergences ne s'expriment pas. Pour moi, le but du congrès, c'est bien que les idéologies, les idées, les points de vue s'expriment et que on en débatte, parce que donc, lorsqu'on en débat, on peut arriver à des compromis. Et si jamais on n'arrive pas à un compromis, eh bien on vote. Voilà, c'est aussi simple que ça, parce qu'une démocratie, c'est ça. Donc, oui, les intentions, les gens qui ont déposé une intention, je pense qu'ils doivent assumer la responsabilité de leur acte. Lorsqu'on dépose une intention, on dépose un point de vue sur la ligne politique à venir de notre fédération. C'est un acte important. Et je pense qu'il faut qu'on le dise très clairement. Les gens qui ont déposé une contribution, ce sont des personnes, associations ou personnes individuelles qui veulent éclairer un aspect, qui veulent travailler, mais qui n'ont pas fait le choix de dire voilà, à un moment donné, on porte une ligne globale par rapport à la fédération.
Merci, monsieur Le Guay. Je vais passer la parole à Georges. Georges Lunsa, donc souhaitez-vous voilà, ajouter un élément, quelque chose?
Oui, je voudrais dire qu'il y a 11 contributions de maisons ou de personnes. Il y en a 11. Donc ça fait, même si c'est un autre apport qu'une intention, il y a aussi la capacité pour apporter une intention. Nous, on était au départ dans une contribution, on est devenu intention parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on porte. Mais il faut aussi avoir le temps, l'énergie, et on repart aussi sur un phénomène. C'est-à-dire, comme disait Max, c'est depuis 77. Donc c'est aussi l'idée de bien relancer un processus, qu'on les pousse là-dedans, et qu'on lance un travail, qu'on puisse évaluer, et après, qu'on puisse, ce qui serait souhaitable, c'est que ce processus puisse continuer sur la durée. Et là, moi je trouve que c'est beaucoup, il y a beaucoup déjà de gens qui se sont mobilisés, des CA qui se sont posé des questions, qui ont refait après des contributions, ou qui en ont... Après, c'est déjà ça. Après, par rapport à ce qu'il y a, il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Et on se retrouve quand même beaucoup. Il y a quand même plein de choses en commun. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse voir sur nos spécificités.
Et puis c'est aussi fort quand même d'avoir réussi le dernier congrès qui est en 77. Donc là, il y a quand même une volonté, ça paraît indéniable. La prise de position n'est pas forcément quelque chose d'évident. On l'aura compris. Par contre, bien évidemment, il ne faut jamais casser les dynamiques. À mon sens, en tout cas, dans notre métier d'animation, c'est essentiel. Merci pour cette petite précision. Ça va me permettre de bien faire la transition sur justement ces fameuses intentions. Il y avait Charles-Henri qui voulait intervenir, mais comme je lui donnais aussi la parole, vous allez pouvoir réagir et ensuite parler de vos intentions et notamment le fait que la fédération soit et doit avoir une mission principale et pour mission principale sa fonction d'employeur. Donc, ça, c'est un peu votre grand chapeau. Vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. Nous vous donnons une petite tribune. On vous laisse un petit temps. Les collègues, vous n'hésitez pas à réagir, vous me faites signe et on voit comment on peut s'organiser. Et le public aussi peut intervenir. Ensuite, on va pouvoir développer.
Oui. Donc d'abord, un petit mot sur le nombre d'intentions, de contributions. C'est qu'une partie de l'ensemble du processus, hein, c'est extrêmement important. Donc le nombre, évidemment, il est significatif de quelque chose, mais d'une partie des choses. D'autre part, ça a nécessité beaucoup de discussions, d'échanges, ça continue. Ça, c'est inquantifiable en tant que tel, sur le nombre de personnes, le nombre d'heures. En tout cas, il y a un gros processus qui s'est mis en marche à des rythmes différents. Et d'autre part, l'écrit n'est pas nécessairement la meilleure méthode au sein de l'éducation populaire. On aime bien les échanges oraux et puis les pratiques en tant que tel. Donc attention, on n'est pas à l'école, on n'est pas à l'université. Donc c'est aussi important de ne pas mesurer seulement au nombre d'intentions de contributions. Donc c'est extrêmement important. D'autre part, sur le processus lui-même, il y a des professionnels qui, je ne sais pas s'ils ont plus de temps que les bénévoles, mais les bénévoles, pour un certain nombre d'entre eux, ils sont aussi travailleurs, salariés, donc ils n'ont pas nécessairement tous les jours la tête penchée sur le clavier pour écrire je ne sais pas trop quoi, puis ensuite on peut pas. Donc c'est pour préciser un petit peu. Je crois que c'est un bon exemple d'éducation populaire, ce qu'on essaie de faire dans nos maisons. Mais ça ne se quantifie pas, en tout cas, pas seulement au nombre d'intentions ni de contributions. C'est important de dire cela. Alors après, sur la question du contenu des intentions, notamment celle portée par M. de Palaiseau, si j'ai bien compris, là, on me demande de nous centrer pour la Palaiseau là sur la première mission employeur. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a 4 points dans cette intention, mais je veux bien développer sur le côté employeur, évidemment. Il y a les questions de financement, puisque ça part aussi pas mal de là, nos interrogations. La question de l'organisation entre la fédération et les territoires et les maisons affiliées, d'accord. Il y a la question de la relation entre les professionnels et les bénévoles, comme pas simplement administrateurs. Et puis, on est aussi dans un cadre particulier aujourd'hui avec la transformation des compétences des territoires, la redéfinition des territoires et donc des subventions et donc des missions des uns des autres. Donc, c'est un peu tout ça. En tout cas, à Palaiseau, on a essayé de donner quelques éléments de réflexion et de cadrage, puisque c'était l'objet d'une intention dans mon enfant. Alors, la mission principale, selon portée donc par l'intention indiquée de Palaiseau, c'est qu'on se dit que la fédération, qui est donc la fédération, qui est d'abord employeur des directeurs, c'est sa mission première. Et on considère que de ce côté-là, le travail n'est pas assez fait pour le suivi des directeurs. Un certain nombre de directeurs peuvent se sentir isolés ou débordés par la complexité croissante de leur mission pour gérer une maison, pour gérer les relations avec les mairies, pour gérer les relations avec d'autres maisons, pour gérer les relations avec les animateurs d'activité. Et finalement, on enregistre aussi un certain nombre de malaise sur un certain nombre de directeurs qui, un certain nombre, sont en arrêt maladie, ce qu'on appelle le burn-out, hein, pour employer ce terme un petit peu à la mode, mais qui traduit quand même une espèce de tension de plus en plus insupportable pour le personnel le professionnel. Or, dans une MJC, si le directeur va mal, il y a grande chance que la maison aille mal. Donc, il faut se recentrer d'abord là-dessus, c'est-à-dire exclusivement, mais d'abord là-dessus, ce qui veut dire un suivi du personnel fédéral, en termes de carrière, bien sûr, de formation, mais ça veut dire aussi aider les bénévoles à mieux travailler avec les directeurs personnels fédéraux.
Très bien, merci. En plus, c'est synthétique, donc c'est bien. Si on est dans cette. C'est plutôt pas mal. On va pouvoir laisser un temps de parole à chacun. Je réagis tout de suite par rapport à ce que vous venez de dire. par qui on a surtout suivi des directeurs et des personnels de la fédération, justement.
Alors, justement, il y a du personnel au siège, du personnel au professionnel. Hein. Bon, par exemple, il y a un directeur régional, il y a aussi un directeur des ressources humaines. Bon. Et puis, il y a le CA fédéral. Hein. C'est quand même lui l'employeur, statutairement parlant. Et donc, il faudrait qu'il soit mieux formé pour comprendre un peu les enjeux liés aux professionnels, à l'animation des maisons. Donc,
c'est par lui. Aider, encadrer et assurer sa fonction d'employeur.
Absolument.
D'accord, on est bien d'accord. Ok, donc en gros, vous avez des personnels au siège, mais vous souhaitez que ce soit le CA qui s'occupe, en gros, enfin, qui ait une action de suivi des personnels en ayant été formés, c'est ça?
En ayant quoi? Je ne peux pas comprendre.
Été formé.
Ah, on a été formé, j'ai compris, déformé, oui. Pardon.
Ah,
oui, absolument, non, mais justement, je suis un peu surpris. Oui, non, il faut effectivement que les professionnels au siège, avec les membres du CA, bon, c'est ça la complexité hein, de nos missions, c'est la même chose au niveau d'une maison, à Limour, à Palaiseau ou n'importe où ailleurs en Ile-de-France, les relations entre professionnels et conseil d'administration, qui est un employeur au niveau fédéral, c'est l'employeur des directeurs, au niveau d'une maison, c'est l'employeur, le CA, l'employeur des personnels, soit des permanents, soit des animateurs d'activité. Et donc, pour recruter, pour savoir ce que l'on veut, il faut effectivement comprendre ce que c'est l'émission des uns des autres. Et le CA fédéral doit être épaulé et épauler le personnel de professionnels pour le suivi des directeurs, ce qu'on appelle le mouvement, les mutations, pour bien voir ce qui se passe, parce que sinon, et en tout cas, c'est la perception que nous avons, notamment à Palaiseau, mais aussi ailleurs, d'une certaine personne en tout cas, c'est que peut-être on se perd dans un vouloir trop faire deux choses. Voilà. Donc se recentrer d'abord là-dessus, et puis s'il y a de la marge, bien évidemment, envisager d'autres choses, et en particulier, peut-être développer aussi une réflexion avec la Confédération et la Fédération française sur le statut du bénévole.
Très bien. Juste une dernière question, une petite précision par rapport à tout ça. Dans votre démarche, je vous expliquais un moment, réduire le personnel du siège travaillant au siège, justement, qui est une option favorisée par une organisation plus horizontale. Vous accentuez beaucoup sur l'aspect horizontal et du fait, en gros, de mettre les gens à niveau ou au même niveau. Qu'est-ce que vous entendez par là, concrètement? Et que quand on voit réduire le personnel, il s'agit bien d'une réduction personnelle du siège, et donc du coup, comment le siège fait pour accompagner son CA, enfin, de fait, vous voyez ce que je veux dire?
Oui. Alors, d'abord sur le vertical horizontal, hein, bon, l'idée défendue, c'est qu'aujourd'hui, les relations entre le siège et les maisons, c'est plutôt de type vertical. Voilà. Et les relations entre les maisons, sont partielles, partiales, éphémères, transitoires. Or, dans le cadre de la réforme des territoires, la loi NOTRe, la reconfiguration des compétences, et notamment avec les fusions d'agglomération, il faut que les MJC se retrouvent à travailler beaucoup plus à ce niveau-là, au niveau, on va dire, ce qu'on appelle plutôt d'union locale, plusieurs MJC. Voilà. Et ça, ce n'est pas la fédération qui peut le décréter en tant que tel, elle peut accompagner, mais c'est ça l'horizontalité. Voilà. Alors après, sur le nombre de personnel, il y a deux choses. Il y a d'une part la question, on va dire, de l'équilibre budgétaire. Enfin, on est en situation délicate, hein, pour employer un mot peut-être un peu soft, mais l'idée, c'est qu'il y a sans doute trop de personnel au siège en tant que tel et pas assez au service des maisons. Enfin, on avait essayé de mettre en place, il n'y a pas si longtemps que ça, un suivi territorial, où un certain nombre de personnels au siège, c'est prévu de l'affecter au suivi, justement, des directeurs. Pour des raisons financières, on n'a pas pu le faire. Donc, on voit bien qu'il y a un petit souci d'équilibre d'un côté du financement et de l'autre côté, le suivi des missions des directeurs.
Très bien. Merci, Charles-Henri. Est-ce que l'un des intervenants autour de la table souhaite intervenir, justement, et réagir à ce que vient d'exprimer Charles-Henri? Et puis, bah, du coup, on va enchaîner ou... Ouais.
Oui, bah, moi, je veux bien réagir. Bon, je ne suis pas vraiment tout à fait d'accord, bien que sur la partie économique, je sois complètement dedans, puis en fait, la trésorière de la fédération. En situation délicate, on le sait, en situation ayant pris également des mesures qui me semblent, je vais dire, intéressantes et qui nous permettront de sortir un petit peu de l'eau, je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc, bien sûr, c'est, il vaut mieux avoir de l'espoir et de l'optimisme. Réduire, quand j'entends réduire le personnel sur le siège, bon, là, je ne suis pas complètement, je ne suis pas du tout d'accord avec cette position. Mais voilà, je veux dire, notre attention, bon, l'attention que l'on a portée sur les quatre, la difficulté de notre attention, c'est de la dissocier de la pression qu'elle émet du siège. Hein, voilà, je veux dire qu'on soit bien d'accord, c'est quatre personnes, pas individuelles, qui sont représentées en maison, comme l'a dit Carole. Mais je veux dire, voilà, c'est intéressant justement puisqu'il y a des points de vue et c'est très important pour la fédération, je veux dire, parce que c'est sa ligne de conduite, hein, qu'elle va poser à partir de ses intentions. Donc, il y a des différences, hein, et ça, c'est ça l'intérêt justement de pouvoir travailler dessus. Mais donc voilà, je maintiens que la fédération en situation de difficulté a pris quelques mesures, heureusement, qui vont lui permettre, je veux dire, de se réaffirmer et de reprendre un peu confiance en l'avenir.
Merci pour ce message, on va dire, positif. Pour la suite, Max Le Guen, je tiens à intervenir, donc CGT.
Oui, donc là, je suis obligé d'intervenir parce que je suis syndicaliste. Donc, c'est pas rien que la fédération ait permis et au syndicat de pouvoir déposer une intention, c'est-à-dire une vision politique globale. Voilà. Et vu qu'il est question du personnel, il me semble évident que les syndicats interviennent. Donc, en tout cas, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça. Sur ce que vient de dire Charles, donc, je partage un diagnostic avec lui, et je pense qu'on peut tous le partager aussi lorsqu'on connaît la situation des professionnels. Oui, les professionnels vont mal. Ensuite, lorsqu'on dit ça, il faut essayer d'expliquer pourquoi. Et qu'est-ce qui cloche? Bon. Donc, lui, il met ça sur la question, entre autres, d'une organisation. Voilà. Moi, je mets ça sur autre chose. Parce que je pense que les professionnels vont mal parce que la fédération n'est pas suffisamment porteuse d'un projet politique. Je rappelle une chose. Nous sommes des salariés d'une fédération. Ça veut dire qu'une fédération d'éducation populaire, c'est une association qui porte un projet philosophique global pour une société et qui ensuite met à disposition des professionnels dans des associations locales pour que le système de valeurs de la fédération puisse être mis en œuvre en action extrêmement concrète. On n'est pas là pour faire, nous, un catéchisme à la population, on est là pour agir avec elle, mais au nom de normes et de valeurs, ce sont les normes et les valeurs d'une société, d'une pensée philosophique qui devrait être celle d'une fédération. Aujourd'hui, je n'arrive pas à lire, moi, quel est le projet de cette fédération. Et si bien que nous sommes plus une agence d'intérim, qui répondons à des demandes locales variées ici et là. Alors là, vous avez un maire qui veut ci, là, il y en a un autre qui veut ça. C'est d'ailleurs la commande publique qui prime par rapport au choix démocratique des bénévoles élus au sein des diverses associations. Et nous n'avons pas les gens suffisamment formés pour pouvoir ensuite agir et interagir. Et donc les gens, les professionnels, se trouvent pris dans une injonction paradoxale. Entre le discours sur les valeurs qui leur est dit, et qu'ils portent bien souvent lorsqu'ils arrivent dans cette fédération, les non-dits d'une fédération ou les dits en contradiction, la situation locale, et souvent le professionnel sert de fusible à tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils avaient une société qui fonctionne mal, c'est le professionnel qui va imploser parce qu'ils sont responsables à tout ça, et ça va être bien souvent le professionnel. Voilà, le professionnel sert de fusible. Donc, pour remettre les choses à l'endroit, parce que moi, je ne peux pas dire qu'il y a trop de monde à la CD, je dis, réfléchissons autrement. Il faut que, dans un premier temps, la fédération soit très au clair sur le projet qu'elle porte. Et donc, le projet qu'elle demande à porter à ses professionnels. Parce que lorsqu'on parle de la fédération, ce n'est pas les gens au siège, c'est l'ensemble des professionnels d'une fédération. Lorsqu'on met bout à bout les cadres, parce que nous sommes des cadres, les directeurs. Donc, un cadre, c'est bien quelqu'un qui porte une politique. C'est aussi vrai dans une entreprise privée marchande qu'une association d'éducation populaire, encore plus. Qu'est-ce qu'on nous demande? Il y a des directeurs aujourd'hui qui vont au boulot le matin, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Voilà. Donc, je pense que le premier acte de la fédération, c'est d'être très au clair sur le projet politique qu'elle porte. Voilà, très au clair par rapport à ça. Quel qu'il soit, mais très au clair par rapport à ça. Si elle est au clair par rapport à ça, les professionnels de la fédération seront déjà bien plus au clair par rapport à ce qu'ils ont à faire. Et la fédération pourra d'autant mieux évaluer la qualité ou non du travail mené. Hein. Et les villes, les maires, les associations, tout le monde en fait sera au clair. Ensuite, on pourra être en débat, en contradiction. Il n'est pas dit que tout le monde partage ça. Mais n'empêche qu'au moins, on aura une ligne. Aujourd'hui, c'est un vide, parfois intersidéral, vraiment, et dans laquelle, aujourd'hui, le bon professionnel, aujourd'hui, c'est le professionnel qui ne fait aucune vague. Voilà. Et dont on ne parle pas. Vous voyez, dès l'instant où le poste est sauvé, bon voilà, ça roule quoi. Hein, et on s'intéresse peu à tout ça. Alors qu'une fédération devrait s'intéresser aux projets menés localement. Vous voyez, donc j'en reviens à ça. La première chose, c'est de définir de quoi la fédération est porteuse. C'est pour ça que notre intention a mis un accent important par rapport à ça.
Merci, M. Le Guin, pour la CGT FERC. On va passer à UNSA. Georges, je souhaite réagir ou compléter, je ne sais pas.
Oui, donc je voudrais déjà dire un certain nombre de choses. Déjà, par rapport à réduire le monde à la fédération quatre mondes, nous, on n'est pas forcément d'accord, puisqu'il n'y a effectivement pas beaucoup de monde. Et le suivi des professionnels sur le terrain, c'est important. Deuxième chose, nous aussi. Ce que disait Max, c'est intéressant. Si nous, on porte une attention, et si des professionnels se sont mis en syndicat, tout ça, c'est aussi pour, en tant que professionnel, savoir c'est quoi notre métier. Et aussi, on défend le fait qu'il n'y a pas que des directeurs en tant que professionnels.
Aujourd'hui, c'est très intéressant parce que justement, c'est un point très important pour moi.
Juste pour résumer vite fait, il y a à peu près. Il y a 170 salariés, il y a 60 cadres, et ça fait 120 équivalents temps plein. Donc en gros, il y a une moitié. Et donc effectivement, il y a aussi les autres professionnels qui ne sont pas des cadres, auxquels il faut prendre en compte, et aussi, il y a tous les salariés des maisons. L'idée, c'est bien de travailler sur c'est quoi une MJC, avec des bénévoles, avec des administrateurs, avec des salariés, avec un directeur, avec les pouvoirs publics, avec les partenaires. Et essayer de reconstruire tout ça dans la réflexion. Et c'est vrai que là où je pense que deux semestres, on travaille tous ensemble, et d'y aller, parce qu'on a tous du temps, on est tous débordés, et obligé, c'est là où ça se passe aujourd'hui, au lieu de faire d'autres choses, c'est déjà un début de réponse. Alors après, on n'est pas tous d'accord, mais il se passe des choses, et on essaie de réfléchir pourquoi on fait, et on remet du sens. Et je voudrais juste rappeler aussi quelque chose, la fédération, c'est bien issu des maisons.
Oui,
et les gens qui sont au CA, je le remets, c'est bien des maisons, et c'est un réseau. Et il y a un réseau aussi national. À ce jour, c'est séparé, mais la fédération régionale en MJC siège à la confédération. Alors elle a des voix, mais elle agit aussi au niveau national en faisant partie de la confédération de MJC. Donc c'est un réseau, c'est les maisons qui se mettent ensemble, et les personnes du CA. C'est bien des gens envoyés par les maisons. Voilà, donc c'est vraiment c'est ça, et c'est ça que nous, il y a une vraie réflexion sur les CA, sur la vie associative, et c'est ça aussi qu'on porte là-dessus, par rapport, mais je reviendrai après sur notre proposition par rapport à la composition du CA.
Alors, avant de donner la parole à Carole, on a un président d'association justement qui est présent, notamment une association qui a connu une situation très compliquée. Moi, j'y ai été confronté et touché personnellement puisque je vis sur cette ville, à Chilly-Mazarin. Je vais me permettre de prendre une tribune juste avant de la donner à Martial des Alexandrines, donc le président. Moi, je suis Chiroquois, plus pour longtemps. J'ai décidé de déménager de cette ville puisque voilà, je ne me retrouve pas du tout dans la politique de cette ville. Ville pour laquelle, moi, je n'étais pas enfant Chiroquois, j'étais enfant Morangisois. J'habitais à Morangis. Morangis, c'est juste à côté. À l'époque, Morangis n'avait pas d'équipement, on va dire jeunesse ou culturel, on va dire suffisant, et avec une offre qui correspondait un peu à ce que moi je cherchais, c'est-à-dire de faire des choses. Et j'ai été accueilli à la MJC de Chilly-Mazarin en tant que Morangisois. Et j'ai pu comme ça découvrir assez jeune un certain nombre de choses, voilà, les vies des MJC et ainsi de suite. Et quand j'ai appris tout ce qui s'est passé, parce que j'ai voulu faire mon métier voilà, d'animateur en MJC aussi, parce que j'ai vu ce qui se passait dans une MJC, notamment à Chilly. J'ai voulu vivre dans cette ville parce que j'ai été accueilli donc, dans cette MJC. Vous voyez, tout est un peu, voilà, sans être, je ne suis pas MJC, hein, je ne m'entends pas avec la MJC, mais c'est la démarche, vous voyez. Et donc du coup, franchement, honnêtement, ce qui s'est passé, ça a été très dur et très compliqué. Je suis d'ailleurs très content que Martial soit là ce matin, parce que ça signifie tout simplement qu'il est encore debout. Et ça, je trouve qu'en termes de, voilà, nous qui prenons un petit peu le visibilité, c'est important. Voilà. Martial, je vous en prie.
Alors, bonjour à tous. J'ai écouté avec attention un petit peu tout ce qui s'est dit. Donc, je suis simplement Martial, je comprends sans doute plus que les autres. Accessoirement, je suis président de l'ONU de Chine-Mazarin, comme tout le monde pourrait l'être si jamais on avait envie de le faire. Et donc, en effet, on a été confronté à des choses un peu compliquées sur Chine-Mazarin, et on voit, par nécessité, par obligation, on est en train de réinterroger et de muter l'ONU de Chine-Mazarin qui existe donc toujours. Dans ce cadre-là, en effet, le congrès me semble très important pour la vie de l'ONU. Moi, je note plusieurs choses. Je pense que je partage le diagnostic de Max Lem quand il dit qu'on est un peu en rupture avec une société. C'est-à-dire que, en effet, il y a une notion d'éducation, à mon avis, qui n'est plus perçue telle qu'elle doit être. J'ai fait un truc assez basique, c'est, je suis allé voir les définitions de l'éducation dans Larousse. La première définition, c'est conduite de la formation de l'enfant ou de l'adulte. Et souvent, les gens pensent en réalité que ça ne concerne que l'enfance, mais c'est de l'enfant ou de l'adulte. La deuxième définition, c'est formation de quelqu'un dans tel ou tel domaine d'activité, ensemble des connaissances intellectuelles, culturelles, morales, acquises dans ce domaine par quelqu'un ou par un groupe. Voilà, c'est l'essentiel de la mission des MJC. Quand je vois qu'il y a des désaccords qui aboutissent non pas à des conflits, mais carrément à des affrontements avec certains partenaires, je me dis qu'on n'a plus ce socle commun là. Et le travail qu'on doit faire, à mon avis, c'est de... avant tout d'affirmer ce socle-là et d'essayer d'en faire un commun. Parce qu'en effet, je pense que c'est beaucoup plus large que la MJC, ce qui se passe actuellement dans tous nos environnements, qu'ils soient professionnels, sociaux, etc. On voit qu'il y a une espèce de peur du lendemain et que par rapport à cette peur du lendemain, il y a un réflexe d'enfermement. Après les attentats du 13 novembre, il y a eu deux réflexions. Il y a des gens qui ont dit ben, on va en terrasse et il y a d'autres qui ont dit on s'enferme. Et j'ai l'impression que dans le cadre de notre évolution sociale ensemble sur la nation française, on a décidé collectivement plutôt de s'enfermer. Donc, c'est assez troublant parce qu'on est dans une société qui est complètement en mutation, pas en transformation, mais véritablement en mutation, et on se renferme sur les réflexes il y a 20 ans ou il y a 30 ans en disant peut-être que ça ira mieux demain. Or, c'est vraiment en mutation, j'ai vu un exemple tout bête. Aux informations dernièrement, il y avait un reportage où ils expliquaient que la pizza était le plat préféré des Français. C'est pas la blanquette de veau, c'est pas le pot-au-feu, c'est la pizza. Aujourd'hui, est-ce que la pizza est italienne ? Aujourd'hui, est-ce que la pizza est italienne ou est-ce qu'elle est devenue française ? Il y a eu véritablement une mutation. Il y a 30 ans, on aurait dit que c'était pas un plat français. Donc, il y a des choses qui bougent comme ça et on n'accompagne pas ces choses-là. On les prend pas en compte. Et surtout, je pense aussi que on est dans une espèce d'immédiateté qui fait qu'on veut du résultat de demain. À chaque fois qu'il y a une élection politique, quand on élit un président, il vient d'être élu, il n'a même pas encore pris ses fonctions, qu'on lui demande qu'est-ce qu'il va faire dans les 100 premiers jours. Comme si 100 jours suffisaient en fait à modifier la vie et puis l'orientation de 65 millions de Français. Vous voyez, c'est à un moment donné, on ne s'inscrit plus dans le temps. Et là, j'ai fait un lien aussi avec la faiblesse du nombre d'intentions par rapport au Congrès. Moi, je ne vois pas un désintéressement, parce qu'en effet, quand on en parle localement, il y a plein d'idées qui fourmillent. Il y a des fois aussi, pas d'investissement, mais beaucoup d'intrigues et d'intentions et de bienveillance. C'est-à-dire que nous sommes arrivés dans un niveau où l'éducation n'est plus partagée, vraiment. Il suffit aussi de voir comment on parle de l'école. L'éducation n'est plus partagée, ça n'est plus un problème de société. L'éducation, à mon sens, est une responsabilité collective, et aujourd'hui, ça n'est plus une responsabilité collective. C'est une responsabilité individuelle relayée, en fait, au père, à la mère, à la famille, à tout cela. Et si on a failli, c'est l'ascension, c'est pas l'aide, c'est l'ascension. Et ça veut dire aussi que quand on a un investissement personnel, on prend un risque. mais on ne prend pas un risque seulement idéologique, on prend en fait un risque, je ne vais pas dire physique, mais un risque de presque de santé, parce que finalement, on va sur un affrontement souvent local, et on va sur un affrontement qui des fois fait du dégât humainement. Donc ça veut dire que les gens attendent en fait que ça s'installe et qu'ils puissent venir dessus. Parce que comme le lendemain est une peur, on ne peut pas prendre un risque pour la collectivité si jamais on se dit que nos propres enfants ont besoin de nous à 100%. Et comme on est très inquiet pour nos enfants parce qu'on sait que demain est une crainte, voilà, à un moment donné, on dit on priorise là-dessus. Et la collectivité, on verra. Et souvent, quand on voit des choses à la télé, Greenpeace ou n'importe quelle association qui fait quelque chose, les gens disent, heureusement qu'il y a des gens qui le font. Ils aimeraient bien le faire. Ils aimeraient bien le faire. Et c'est pour ça que moi, je crois vraiment que ce que j'ai vraiment appris dans la famille Mazarin, avec tout ce qu'on a pu affronter jusqu'à maintenant, je pense qu'il faut, relancer pour repartir de la base, pour repartir de l'adhésion. L'adhésion, en fait, de la population. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, nous devons amener une idée alternative à ce qui se passe. Oui, nous devons expliquer que les politiques, les services publics ne sont pas des prestataires de services auxquels on dit on voudrait ça, on attend que. Et après on négocie en disant bah oui mais il faut augmenter les impôts, ah bah non on veut pas, bon alors un peu moins de ça, bon d'accord. Et ça c'est du secteur marchand. Donc soit on choisit en fait d'être dans une vie collective où on a un secteur marchand, où on négocie par rapport au prix, par rapport aux envies, etc. Soit on choisit en fait d'essayer de continuer à construire et de développer quelque chose. Et moi, je crois que prioritairement, c'est en fait ça qu'on doit porter. À Chine Mazarin, on a la grande chance d'avoir un directeur qui s'appelle Laurent Hoth, qui est quelqu'un qui fait des choses formidables et qui arrive, je dirais, à partir justement de la base, si je n'aime pas tellement ce mot base, mais arrive à partir de la population et des envies simples des gens pour essayer de construire quelque chose sur cette base-là. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, quand on fait ça, c'est-à-dire qu'on part sur des fondations, sur des choses très concrètes, très très simple, mais qui sont des envies et qui sont des moments de partage et qui sont des moments en fait de construction de quelque chose. Et quand ces bases sont posées, après, si elles sont solides, on peut rajouter des étages dessus. Mais là, on est en train d'essayer de bricoler le quatrième, cinquième étage, souvent, en voyant qu'il y a des coutures dans les fondations et puis on se dit, mais pourquoi ça ne tient pas? Donc, en conclusion, je ne veux pas faire un discours trop pessimiste non plus, mais je pense que. Je ne vais pas dire qu'on a un tournant, parce qu'on est tout le temps un tournant. La vie évolue, la vie bouge, la vie se modifie, et on n'est pas en fait des gens qui héritons de quelque chose qui est comme ça et qui ne bougera pas. On a la responsabilité de continuer à construire le chemin. Mais il faut, et les mots clés pour moi aujourd'hui, c'est la possibilité de s'inscrire dans le temps, ce qui ne veut pas dire ne pas gérer les urgences, mais il faut différencier ce qui est de l'ordre de l'urgent et ce qui est de l'ordre de l'essentiel. Et l'essentiel, on ne peut pas le traiter dans l'urgence. Et là, je rejoins Max, en effet, pas forcément par rapport à la fédération, mais par rapport à l'ensemble des associations, qu'elles soient juste ou non, d'ailleurs, il est absolument nécessaire qu'on puisse, à un moment donné, modifier un ADN qui a été modifié pour que les gens voient loin. Aujourd'hui, toutes les actions qu'on fait, il y a des choses qui se font de façon formidable, mais on avance sur le chemin en regardant nos pieds. Et quand on avance sur le chemin en regardant nos pieds, on ne sait pas où on va et s'il y a un embûche, on ne la voit pas venir. Donc il faut qu'on marche en regardant devant. Et je crois que c'est simple, comment dirais-je, c'est simple l'idée qu'il faut prioritairement affirmer, et y compris auprès des partenaires élus locaux. Parce que juste la définition qui dit nous on veut former quelqu'un dans tel ou tel domaine d'activité et lui apporter l'ensemble des connaissances intellectuelles, culturelles, morales acquises dans ce domaine, apporter toutes les connaissances intellectuelles, culturelles et morales dans ce domaine, je ne vois pas comment on peut être contre ça. Vous voyez ce que je veux dire, c'est à un moment donné, où est le point commun qui va faire qu'on puisse repartir ensemble vers quelque chose? Et je crois que c'est ça vraiment qu'on a à travailler et sur lequel on a à trouver une harmonie de principe. Après, les déclinaisons vont se faire différemment, mais il faut cette harmonie de principe. Donc, moi, personnellement, je suis passé par la MJC il y a assez longtemps. J'ai été président de la MJC chez Mazarin quand j'avais 23 ans. J'y suis resté à peu près 7 ans. Après, j'ai laissé ma place à d'autres parce que j'avais appris plein de choses que j'utilise tous les jours. Là, la MJC de Chine Mazarin a été attaqué. A été attaqué injustement en plus. Donc j'ai décidé d'y revenir pour essayer de faire en sorte qu'elle ne meure pas. J'ai rien de plus que les autres, j'ai rien d'exceptionnel par rapport à ça, mais ça veut dire que ça marche. Parce que si jamais en fait l'MJC forme quelqu'un qui débarque, qui va utiliser ça ailleurs, et quand il y a un problème qui revient pour dire non, non, moi j'en ai profité, il faudrait que les autres en profitent aussi parce que c'est important, ça veut dire que ce concept marche. Donc il ne faut pas non plus négliger les choses qui existent et qui fonctionnent, il faut juste les reconditionner dans un mode d'invitation.
Merci Marcel pour cette tribune. C'est important que vous preniez la parole. En même temps, ça permet de faire un point aussi sur la situation, mais même votre explication, et là, surtout je reprendrai la fin de ce qui a été dit, qui est très 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 important, c'est justement oui, ça fonctionne, j'en suis d'accord. Et puis moi, je dirais aussi, au même titre, moi je suis parti de la case bénévole et j'en ai fait un métier, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et après maintenant, je suis dans cette transmission-là. Et ce qui m'intéresse aussi dans les différents échanges et discours que vous avez pu avoir, c'est que au-delà du questionnement global que vous pouvez vous positionner, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut se reposer la question, il faut refonder les choses, parce que justement, on peut être attaqué, les choses ont changé. Effectivement, certains sont au 5e, 6e étage, mais le rez-de-chaussée n'est pas du tout terminé, il n'est même pas fait, voire il va se casser la gueule. Enfin, vous voyez, toutes ces dimensions-là. Alors oui, c'est un gros boxon, oui, c'est un gros bordel, mais en même temps, c'est la vie. Hein. On n'est pas dans une société, quand vous allez à Paris, il est tout super beau, il est tout super laid. C'est comme ça, vous voyez. Donc, à partir de ce moment-là, on fait ce qu'on peut.
Même à Limour.
Voilà, même à Limour. Même à Limour. Carole, vous souhaitez intervenir, puis après, je donnerai la parole à Charles-Henri, parce que du coup, il va falloir qu'on continue dans les intentions. Et déjà, de côté contraire, notamment des syndicats, il y a déjà pas mal de choses à dire, et on terminera avec Carole, à moins que vous vouliez tout de suite bifurquer sur les intentions, si vous voulez.
Je voulais lier ce qu'a dit Martial. Alors d'abord, une première chose, je trouve ça super émouvant la manière dont il en parle, et moi je me trouve complètement dans ce que tu dis. Enfin, j'étais en MJC étant môme, pour dire les choses très rapidement, et je ne suis pas dans le milieu depuis excessivement longtemps. Hein, c'est ma deuxième année au Conseil fédéral, donc c'est vraiment quelque chose d'assez neuf, et ça fait maintenant 5 ans, 6 ans, j'ai fait ma deuxième année dans ma MJC. Je trouve que ce qu'il a dit est particulièrement important parce que, et je le relis là pour le coup au processus du Congrès, parce que ce qui est arrivé à Sillé, pendant très longtemps, je pensais que moi j'étais dans une municipalité où les choses se passaient bien, on a très bon rapport avec le maire, qui est une femme plutôt chouette, enfin que j'apprécie plutôt, même si je ne suis pas toujours d'accord avec elle, mais bon, elle soutient la MJC, la municipalité a toujours soutenu la MJC avec dos et débat, mais bon, plus ou moins, ça a toujours fonctionné.
Pouvez-vous juste me préciser peut-être la localité ?
Pontecomo, 77. Donc vraiment, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Et puis, là, on a vu des MJC pour lesquels tout allait bien avec leur municipalité, puis du jour au lendemain, ça ne va plus. Moi, je suis au bureau de la Fédé, et puis quand on a réunion de bureau, tout à coup, on a le directeur fédéral qui nous dit, dans la série des mauvaises nouvelles, alors on a des bonnes nouvelles, alors on a telle ville qui veut ceci, telle ville qui veut cela, et puis il y a celle-là, voilà, cette MJC, elle est larguée aujourd'hui. Là, il y a un gros problème, on sent qu'il y a une pression très forte, et on pense que ça va craquer. Le poste est remis en cause, la convention est dénoncée. Et ça arrive sans qu'on sache réellement pourquoi. Enfin, moi, c'est ce qui me... Il y a des endroits où on a des éléments de qui nous font dire qu'effectivement ça va pas bien. Mais dans le cas ci, par exemple, c'est arrivé comme ça, enfin, c'est pas les seuls. Mais il y a des autres cas qui tombent comme ça, et les maisons disparaissent. Enfin, parce qu'à la fin des temps, c'est quand même bien ça. Moi, quand j'ai vu j'en ai serré quand j'ai vu ce qu'il dit. J'ai une fille qui a bientôt 15 ans, qui était l'année dernière à la G, donc qui a mangé dans le jardin, devant la MJC et tout. Et quand elle a vu le reporter, elle a pleuré. Enfin, des trucs quand même, c'est énorme ce qui nous arrive, c'est des choses comme ça qui arrivent. Je pense que ça nous remet tout en question. Là aussi, je relis ça au processus du Congrès, c'est que, effectivement, on est forcément plus fort quand on n'a pas de ligne directrice claire pour tout le monde. C'est vrai que mettre un directeur en danger sur un territoire parce qu'on n'arrive pas à savoir ce qu'on veut réellement pour la fédération, c'est vraiment un problème. Et là, je trouve qu'on a une attitude courageuse tous ensemble, c'est que, voilà, on met tout sur la table, et à un moment, on dit, voilà, on s'engage dans un processus de concept qui est vachement casse-gueule, quand même, parce que, le directeur régional est un endroit ce matin où ça ne va pas être facile non plus, et, enfin, bravo, quoi, il faut le vouloir, hein, je trouve qu'on est courageux tous ensemble, on est vraiment courageux de prendre des positions comme ça. Moi, je me suis entendu dire à certains moments, oh, mais t'as mis ton nom sur une intention, mais tu te rends pas compte, t'es folle, quoi. Politiquement, tu te rends compte, tu te grilles. Mais je me grille par rapport à quoi? Enfin, j'affirme juste quelque chose que je pense dans la vie de tous les jours.
Ah, mais c'est justement à l'heure actuelle, c'est bien, c'est bien le problème.
Et ben moi, ça me dérange pas, sinon je serais pas là. Mais on est tous là pour cette raison-là, quoi, parce qu'on a eu le courage de le faire. C'est pas le courage, quoi, c'est normal. On est tous, y a des militants syndicaux ici, moi j'ai été militante politique pendant très longtemps. J'ai quitté mon parti politique parce que précisément, il ne mettait pas son nom correctement en bas des pages. Donc c'est, voilà, moi j'apprécie ce processus de congrès pour ça. Et pour terminer sur le congrès, sur ce que je voulais dire dès le départ en réalité, c'est que c'est un processus qui interroge tous les gens qui côtoient de près la fédération. C'est un processus qui interroge les professionnels, qui interroge les cadres de la Fédé, qui interroge les bénévoles des maisons, qui interroge les gens qui fréquentent nos maisons tous les jours. Quand on parle de légitimité sur un territoire, pourquoi on fait ça? Pourquoi on est là? Moi, je ne suis pas là pour donner des cours de yoga. Je ne suis pas là pour qu'il y ait un prof de yoga qui vienne donner des cours. Je suis là parce que je suis intimement persuadée qu'on est un outil de médiation entre la République d'un côté et la famille de l'autre, enfin la famille ou parfois l'absence de famille, et qu'on peut créer quelque chose là, dans cet espace singulier, et qu'on peut en faire émerger quelque chose d'important. Moi, c'est ce qui m'est arrivé personnellement. J'ai été transformée, on parle toujours du processus de transformation, mais moi, j'ai été transformée, je suis tous les jours transformée par ce processus que je vis en MJC. Laure peut en témoigner, c'est à cause de Laure, en fait, que je suis là.
Alors, attention.
Non, parce qu'elle était.
Dans les intentions, ça s'appelle l'intérêt.
Elle était directrice de l'UD, ouais. 77, et moi j'étais bénévole dans une maison, et c'est via les formations de l'UD, tout ce qui s'est passé autour de l'UD, que j'ai pris des responsabilités, que j'ai osé le faire. Quoi. Et ce processus de transformation, cette espèce d'alchimie, je pense qu'elle est importante à vivre, et je pense que sans nous, il manque quelque chose sur les territoires, il manque quelque chose dans la vie, quoi, enfin, tout bêtement. Et là, ce processus de congrès, il m'intéresse parce que précisément, il permet cette transformation, alors peut-être pas le jour du congrès, mais dans ce qui se passe dans les maisons tous les jours. Quand moi, j'ai un adhérent qui vient me voir en me disant « Ah, mais c'est quoi cette histoire de congrès? Qu'est-ce qui se passe? L'histoire des intentions? Je ne comprends pas vraiment. » Le temps que je prends pour l'expliquer, la demi-heure, les trois quarts d'heure que je vais passer à l'expliquer, c'est une petite graine qu'on plante et qu'on verra fleurir plus loin, quoi. Et je pense que si on ne peut pas s'appuyer sur des bénévoles, sur des adhérents forts, des filles Mazarin, il y en aura de plus en plus. Parce que précisément, c'est aussi les adhérents des maisons et tous les adhérents, tous les habitants d'un territoire qui font qu'une MJC peut exister et peut continuer.
Merci Carole pour cette intervention, parce que c'est important d'avoir votre positionnement, votre regard, et puis aussi d'où vous venez. Parce que mine de rien, vous nous avez donné quand même pas mal d'informations qui permet aussi de comprendre un peu mieux les raisons de votre investissement, j'ai envie de dire, et votre engagement tout simplement. Charles-Henri, vous souhaitiez réagir, il va falloir qu'on accélère un petit peu, parce qu'il nous reste encore des intentions à parler et que l'heure tourne. On a encore Marcel qui souhaite intervenir très rapidement pour réagir à ce qu'il a entendu, je suppose. Charles-Henri, pareil, si on peut être un peu synthétique, mais n'hésitez pas, je vous laisse quand même le temps de parole, et ensuite on passera à la CVT, puis à l'UNSA, et on terminera avec Carole.
Oui, donc très rapidement, c'était suite au propos de Martial. Je voudrais mentionner deux, trois choses. Martial a dit deux choses. Il a parlé de l'industrie de Philippe Mazarin et les sales coups qui a été porté par ce maire omnipotent qui a fait du mal à l'industrie, qui a fait du mal au personnel, qui a fait du mal à la population et qui a donné une très mauvaise image de ce qu'est une mairie, des relations, etc. Et d'ailleurs, beaucoup de maires ne se retrouvent pas dans ce genre d'attitude, quelles que soient les critiques qu'on peut faire à telle ou telle industrie. Donc, une attitude tout à fait condamnable. Et donc bravo à l'invité de Sylvain Mazarin, au rôle de la fédération qui m'a été présente pour soutenir à l'idée, à d'autres invités, à l'ensemble des gens qui sont venus manifester le soutien et aussi pour remonter l'invité. Donc bravo. Sur ce que dit Martial, moi qui suis de l'éducation nationale, pourquoi je suis arrivé aussi pourquoi je fais aussi de l'éducation populaire, comment j'ai fait, c'est parce que ce que dit Martial, c'est de la promotion sociale. Voilà. C'est ce que tu as dit aussi, hein, dans le parcours et tout, et ça, c'est important. On peut critiquer les choses, il faut critiquer, mais la question, il ne faut pas tout faire. Hein. Et puis, une fois qu'on est sorti du communicatif, comment on peut avoir aussi de la promotion sociale? bien, par exemple, par des corps intermédiaires. Ça peut être par un syndicat, ça peut être par des associations d'éducation scolaire, comme l'indiqué. Donc, je trouve que ces parcours-là, il faut les valoriser. Et quand on regarde tout ça, alors tout ça, ce n'est pas quantifiable parce que, bah, parce qu'on n'est pas pour l'emploi, parce qu'on ne fait pas des statistiques de ce genre, c'est pas ça, mais il ne faut pas l'oublier, c'est cette richesse-là. On a des MDC à CIR, on a des MDC à RIS, on a des MDC à GIF, on parle que des soins en amont. Mais on voit bien que ce n'est pas les mêmes populations et c'est quand même de la promotion pour tout le monde en individuel et collectif. Peut-être notre un petit peu différemment les choses. On parle beaucoup bon, donc, de choses qui vont mal, hein, en particulier ce que dit Max pour la CGT, de tout va mal, je caricature peut-être un petit peu en disant que tout va mal selon le point de vue. Bon. Mais ce qu'a dit Daniel, par exemple, c'est que tout ne va pas si mal. Donc,
oui.
Hein. Et si je prends les sommes, mais bon, je ne veux pas tirer vers les sommes, mais je connais un petit peu mieux évidemment, on a créé des industries en somme. D'un côté, tous les Mazarin a été attaqué, mais résiste. Voilà. Mais on a créé une MJC sur le site de l'Essonne, j'ai envie, à Gomez-Châtel, avec des soutiens de municipalité. Bon, si je ne prends pas les autres, et on a un bâtiment qui est en train d'être refait à neuf. Alors, avec l'aide de la région, bien entendu, mais aussi de la municipalité. Donc, on voit bien que tout n'est pas nécessairement négatif. Hein, beaucoup de choses qui se passent. Et pour revenir sur les intentions, il y a quelque chose qu'il faut voir aussi, c'est qu'effectivement, on a un peu plus de mal à remplir nos missions d'éducation populaire, je mets ça au pluriel, c'est comme culture, c'est au pluriel. Hein. Mais c'est aussi parce qu'on n'est peut-être pas assez attentif, pris par l'urgence ou l'essentiel, hein, on existe comme un dimension, on n'est pas assez attentif aussi à tout ce qui se passe dans notre société. Hein. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, de mouvements citoyens. Je vais prendre un seul exemple, puisque on ne va pas faire la liste, mais par exemple les AMAP, ou depuis matin on a travaillé avec une AMAP. Bon. Il y a des choses comme ça, les citoyens s'organisent. Et de ce côté-là, on n'est peut-être pas assez attentif à ça. Et donc, quand je parle d'horizontalité dans notre intention, c'est peut-être un peu plus ça.
D'accord. Et vous parliez aussi des notions d'économie sociale et solidaire. On y reviendra, parce que ça fait plus de deux siècles que, enfin, 200 ans que ça existe. Donc, il y a des choses qui existent. Martial, pareil, très succinct. Puis après, on va laisser la place, la parole à la. Allez, à l'UNSA, parce qu'on est. On est galant, on va laisser la parole à l'or.
Non, bah non, Carlos, c'est l'or. C'est pas la galanterie qui va la parole.
Je vais faire super court, promis. C'est juste pour faire un ajout par rapport à ce que j'ai dit, puis ce qui a été complété. À Lido, on a pas mal parlé de ce qu'on a gagné nous-mêmes, mais ce qui est important aussi, c'est cette idée de transmission et de faire gagner aux autres. Parce que moi, j'ai été frappé à faire un truc par rapport aux attentats du 13 novembre, là, le dernier. Quand j'entends parler les gens, il m'a semblé que la première découverte qu'ils ont fait, c'est que, bah, qu'on était mortel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le discours des gens, c'est « mais alors, on peut mourir, c'est pas, ça aurait pu nous arriver à nous ». Et il y a eu cette espèce de prise de conscience. Et j'ai l'impression, si tu veux, qu'on vit notre vie aujourd'hui, la collectivité, comme si jouait, vous savez, il y a très longtemps, quand il n'y avait pas encore tous les jouets électroniques, où il y avait le petit personnage qui était devant et le décor qui défilait derrière. Et on regardait le décor qui défilait derrière, on avait l'impression que le personnage bougeait. En fait, là, c'est pareil, c'est-à-dire que nous, on est inamovibles, et puis le temps se déroule derrière nous. C'est-à-dire que les gens qui pensent à demain, ils se voient dans 20 ans, toujours avec le même âge, avec les mêmes équipes, avec le même environnement, et c'est le temps qui a bougé derrière. Et en réalité, je crois qu'il faut sortir de ça, enfin, il faut prendre conscience de ça, parce que ce qu'on transmet dans les MJC, moi aujourd'hui j'ai 40 ans, d'accord, 42, bah, c'est 43, les jeunes de 20 ans, les jeunes de 20 ans à qui je transmets des choses, c'est ceux qui ont 40 ans quand j'en aurai 63. Et ça, on l'oublie un peu, parce qu'en fait, on pense que le truc défile, et puis dans 20 ans, ils auront toujours 20 ans, et moi toujours 43. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc en fait, on est en train de transmettre des choses qui vont nous revenir après. Parce que les gens qui sont derrière nous, ce sont les gens qui vont s'occuper en fait de la société après. Et donc, on a cette responsabilité-là, et c'est en ça que je pense
c'est
que
l'éducation
est une responsabilité collective, vraiment.
Très bien. Merci Marcel pour cette intervention. L'UNSA va nous parler de son intention, de ses intentions. Pareil, vous avez 10 minutes, comme pour la présentation de son rapport.
Oui, alors peut-être redire effectivement que le CEP, UNSA, est relativement récent dans le paysage de la fédération. C'est une section qui s'est créée il y a moins de 2 ans, et que du coup, on est quand même vraiment... on s'est mis au travail, on essaie d'appréhender les choses, mais on n'est pas encore dans quelque chose qui brasse l'ensemble des questionnements, parce qu'on est aussi sur des missions professionnelles, et donc il faut libérer du temps, mais ça c'est le cas de tout le monde. Bref. Simplement se dire que dans ce que l'on défend et ce qu'on a posé dans notre intention, alors je laisse aussi la parole à Georges derrière, mais la première des choses, c'est vraiment de continuer à opérer et à travailler dans cette dimension de co-gestion, avec pour autant une volonté peut-être de réinterroger la manière dont se vit cette co-gestion aujourd'hui, avec une hypothèse qui pourrait être celle d'espace de délibération qui soit composé différemment, avec une présence peut-être plus marquée des différents corps qui constituent la fédération, bien sûr les bénévoles et les administrateurs, mais aussi les professionnels et pourquoi pas aussi des acteurs directement, les élus politiques qui au niveau de la fédération régionale ne sont pas présents. Donc voilà, essayer peut-être de penser à cette dimension-là en termes de collège, mais voilà, c'est une piste de réflexion qu'il faudrait mettre au travail. Et globalement, ce qui ne figure pas dans l'intention, mais ce que nous avons pensé depuis, c'est qu'il semblerait quand même important que la première des étapes, ce soit de se dire, aujourd'hui, chaque année, le bureau est remis en question et le conseil d'administration se renouvelle par tiers. Donc, ça semble un petit peu difficile sur des réflexions qui sont là inscrites dans un temps très long, de se dire on fait tout dans l'année. On l'a vécu là sur le congrès, faire un congrès dans une année, c'est très compliqué pour permettre la mobilisation de tous et la participation de tous. Donc, peut-être envisager une évolution statutaire et structurelle qui pourrait permettre un mandat plus clair, mais plus long. Puisque un mandat d'une année, c'est quand même assez court pour pouvoir conduire un développement et un changement en profondeur. Ouais, c'est peut-être pas assez visible dans l'intention, mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'on continue de réfléchir et ce qu'on proposera vraiment de mettre en débat aussi au congrès.
En précisant qu'il y a toujours dans ces principes-là un congrès qui est tous les 3 ans avec un bilan et une proposition pour retravailler ce système.
Peut-être se dire, du coup, dans ce questionnement autour de l'institution, évidemment, au regard de la fréquentation de nos maisons, comme ça a été rappelé au début, il y a 41% des jeunes qui fréquentent les maisons qui ont moins de 26 ans. Et pour autant, dans les conseils d'administration, on n'a pas 41% des administrateurs qui ont moins de 26 ans. Donc, comment on considère cette réalité-là pour la mettre au travail dans les espaces aussi de délibération? Donc là, ça, c'est vraiment un des enjeux qui nous semble important, de garder la richesse et de conserver, de continuer d'alimenter la richesse de cette co-gestion, peut-être en revoyant les équilibres et en lui permettant d'agir sur un temps qui permette vraiment la réalisation et l'évolution des changements. Et ça, c'est forcément intimement lié à la question qui a été soulevée à plusieurs reprises de la formation, mais de la formation à la fois des professionnels, à la fois des administrateurs et de l'ensemble des acteurs. Voilà, il ne s'agit pas simplement de dire, bon ben voilà, on est sur une formation de cadre et puis tout est articulé autour du cadre directeur qui va être mis en situation de direction d'une maison, mais comment, il y a effectivement des responsabilités qui sont différentes hein, dans les schémas d'organisation, mais en même temps, tout le monde doit pouvoir comprendre les enjeux qui sont en mouvement et en réalité sur les territoires. Donc, avec des processus qui peuvent être plus ou moins longs, dans des temporalités différentes, parce qu'on sait bien que les administrateurs n'ont pas forcément la même disponibilité qu'un professionnel, puisque la formation pour un professionnel, ça doit s'inscrire dans son temps de travail. Donc voilà, vraiment repenser ça dans sa globalité. Et peut-être pour faire le lien sur la question économique et la fragilité économique de la fédération, s'interroger sur l'hypothèse, et là, encore une fois, le temps nous a pris un peu de cours, mais sur l'hypothèse d'avoir, avoir un centre de formation qui serait adossé à la fédération, mais pas directement au cœur de la fédération, permettrait d'avoir un autre équilibre pour ouvrir aussi du coup ces formations sur d'autres acteurs, et de par ce fait, permettrait une autre porosité sur les territoires, dans les coopérations, parce qu'une meilleure compréhension est possible. Voilà, donc ça, c'est un peu les éléments de notre intention. Ce qui nous semblait très important, et ce qui nous semble toujours très important, c'est vraiment de se dire que cette intention, effectivement, aujourd'hui, elle a été réalisée par des professionnels, mais les professionnels, on n'est rien sans les administrateurs, et c'est bien dans cette dimension-là qu'il faut que les choses se construisent. Donc, notre volonté autour du congrès, c'est de se dire, bon, ben voilà, nous, on a eu le temps de se mettre en commun et de travailler sur cette intention-là. Après, il faut vraiment qu'on en arrive à la mettre en partage, en discussion et en cohérence et en coopération ou en tension, du coup, on verra ce qu'il en est, avec des administrateurs pour arriver à construire la fédération de demain en lui donnant les moyens de pouvoir vraiment être dans cette transformation sur un mandat plus long.
Merci Laure, vous avez été bien précise, vous avez fait 8 minutes très précisément, donc c'est plutôt pas mal. Vous avez 2 minutes encore si vous le souhaitez. Laure, je t'en prie.
Oui, je voulais... On a retravaillé aussi notre intention sur aussi une réflexion pour revenir à ce qu'est bien des maisons qui font réseau, qui font fédération, qui fédèrent, essayer de travailler avec les maisons directement par rapport aux questions quotidiennes, qu'il soit au niveau juridique, comme sur le principe informatique. Donc là, on est dans la réflexion aussi comment le mettre en place, sur tout ce qui est juridique, comptabilité, paix. Regroupement aussi pour des photocopies, enfin voilà, pour un certain nombre d'achats. Cette réflexion-là de mutualisation et d'être tout de suite dans la réponse aux maisons en disant j'ai un souci, bah, tout de suite j'appelle la CD, enfin voilà.
Sachant que voilà. On y réfléchit, je repense à une citation là, de Louis dans la semaine et que je trouve assez. On y réfléchit, donc il n'y a pas de solution, il n'y a que des forces en marche en fait, c'est
un texte de vérité. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on y réfléchit bien et que ce n'est pas. On n'a pas une proposition toute faite, c'est bien le mettre au réseau en disant voilà, okay. Comment on peut mettre ça en place. Ça, c'est la chose importante. La dernière chose aussi. C'était aussi aller sur une politique territoriale avec les nouveaux territoires où il y a déjà des maisons qui travaillent ensemble, il y a plusieurs maisons qui travaillent ensemble pour plusieurs actions, et d'aller un petit peu plus loin dans la contractualisation, là où ça commence déjà à travailler, avec ces nouveaux territoires, directement de la fédération, un, dans un esprit de développement, et deux aussi, parce qu'à un beau jour, peut-être que dans 10 ans, on va nous dire, bah, vous défendez plus de la mairie, vous défendez d'un territoire.
Tout à fait.
Et qu'effectivement, si on est déjà en relation, si déjà la fédération est déjà en relation, bah, notre système, qui des fois pose débat à quoi ça sert, pourquoi, la mise à disposition du professionnel, c'est quoi, vous êtes pas salarié de la MJC, mais comment on fait les RH, enfin, toutes ces questions-là, ouais. On l'a régulièrement, et bien déjà, ça permet de les avoir mis en pratique sur des choses bien pratiques. Par exemple, sur les questions de jeunesse, on travaillait dans des maisons où il n'y avait pas d'animateur jeunesse, donc que 3 maisons se mettent ensemble sur un territoire pour avoir un animateur jeunesse, mais qu'il soit lié à la fédération et que ce ne soit pas une maison ou un directeur au niveau des égaux, après c'est compliqué la mutualisation,
c'est
aussi des choses. Ouais. Ce n'est pas que la fédération va régler, mais c'est aussi une façon. Donc là, c'est aussi un acte qu'on propose d'y réfléchir pour prendre de l'avance. Et ce que je trouve important aussi, c'est que là où on est fort, les MJC, c'est quand on prend de l'avance, on n'est pas que dans la réaction.
Oui.
Il y a des très belles choses qui viennent d'arriver parce qu'il se passe des choses. À Sully, on suit les collègues et il se passe des choses aussi importantes. Je regardais le président. Parce qu'on est en réaction, on sent que ça nous redynamise aussi, même si c'est très dur à vivre pour eux, mais il y a plein d'espoir derrière. Après, il ne faut pas être qu'en réaction. Et puis, c'est tout. Je voulais juste finir. Sur un mot pour l'éducation populaire. Condorcet en 1792 disait que l'éducation tout au long de la vie, on est bien là-dedans, c'est bien l'éducation tout au long de la vie. Et c'est aussi le sud.
Merci beaucoup, Georges, pour le temps qu'il y a une liste. On reviendra après les intentions sur les 2-3 questions que j'ai pour l'ensemble. Hein, c'est l'idée de donner un peu le. Voilà. Max Le Guen, en tant que représentant donc CGT, quelle est votre intention et voilà, parlez-nous un petit peu de votre positionnement, surtout autour de la cogestion, si j'ai bien suivi, mais pas que.
Alors, nous, on a déposé un texte en 2 parties. Un texte que l'on a déposé avec le syndicat national, le cercle CGT de l'ensemble des MJC de France, Confédération et Fédération française, et un texte plus particulier lié à notre situation en région Île-de-France. Alors, la première chose, nous, on pense qu'il faut retourner vers une union des MJC de France. Voilà. Parce qu'on estime que la situation est telle qu'il est ridicule de vouloir faire des entreprises, entre guillemets, régionales, avec des projets différents. Moi, j'aimerais qu'on m'explique la différence qu'il y a entre une MJC et la Confédération et une MJC à la Fédération. Personne ne serait capable ici de m'expliquer la différence. Et entre directeurs, on fait le même métier. Donc, je réinterroge la scission qu'il y a eu en 1993. Et on se dit qu'aujourd'hui, on n'a plus les mêmes moyens de se payer ça. Donc, on appelle à une union des MJC de France. Donc, on appelle à ce que la Fédération régionale des MJC travaille avec d'autres, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va faire comme ça, du jour au lendemain. Sous quelle forme, on n'en sait rien, je veux dire, voilà. Mais en tout cas, il faut aller vers ça aujourd'hui. Et en tant que syndicat et représentant des salariés, les salariés ont tout intérêt à revenir à cette union des MJC de France. Ça, c'est un premier point. Alors, deuxième point ensuite, nous, on a voulu partir d'un diagnostic de la société. Charles-Henri disait que la CGT avait une vision du tout, ça allait mal. Non, enfin, je veux dire, c'est pas le problème. Je pense qu'on est des gens qui agissent tous les jours. L'idée n'est pas de dire que ça va mal ou que ça va bien. L'idée est de regarder une situation. Je veux dire, est-ce qu'on la regarde ou pas. Le constat que l'on fait, enfin, je veux dire, il est simple. En 1972, il y a en fait 320 investisseurs en 1920. Moi, j'ai travaillé à la Fédération en 2001, j'ai travaillé 10 mois. Il y avait 130 directeurs à la Fédération. Cette année, on va avoir 50 postes financés. Donc, moi, je veux bien qu'on me dise que les choses allaient bien, mais l'analyse historique, c'est que voilà, nous ne sommes plus dans l'ère du temps. Quoi. Voilà, hein. Donc, il faut quand même bien regarder ça. Et donc, ça signifie que pour nous, il n'y a rien à attendre à l'avenir des politiques publiques. Demain, pour nous, par rapport aux politiques publiques, sera pire qu'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher à développer, on le fait tous et tout le temps, mais ça veut dire que notre raisonnement, c'est plutôt de se dire comment, entre nous, on trouve les formes d'une réorganisation, d'une entraide et d'un développement, et pas d'attendre d'en haut. C'est pareil pour la MJC, est-ce qu'on attend du siège ou est-ce qu'on se prend en main et qu'on agit ensemble, voilà. Donc, le diagnostic que l'on fait, nous, est celui-là. Il n'y a rien à espérer de demain. S'il y a à espérer de l'union des MJC, puisque lorsqu'on dit qu'il y a 83, je veux dire, associations, équipements, 44 salles de spectacle, 4000 salariés, là, il y a une richesse. Il faut arrêter de se morfondre et être dans une plainte. Nous, on n'est pas dans la plainte. Bon, en tout cas, je ne suis pas du tout la personne qui me connaît, je suis plutôt dans l'action. Et en disant, voilà, on peut faire plein de choses. Aujourd'hui, voilà, on fait une petite émission de radio qui peut être diffusée partout, qui peut servir, on peut faire plein de choses. Mais en tout cas, ça part de nous. Ça, c'est un premier point. Ensuite, un deuxième point, c'est à voir avec ce que je vous dis avant. Pour nous, la fédération, c'est d'abord un système de valeurs qui se retranscrit ensuite dans des actions concrètes. Il y a un implicite éducatif. Vous voyez, lorsqu'on éduque, il y a deux façons d'éduquer. Ou c'est un explicite. Je prends ta chambre, hein. Je fais ça avec ma fille depuis 20 ans, elle la reçoit. Bon, hein. C'est qu'au général, c'est un truc qui marche, hein. Tous les ans, tous les jours, on fait un catéchisme. Hein. Ou alors, voilà, c'est faire avec les gens au quotidien. Et dans cet implicite-là, il passe plein de choses. Hein. Et je dis bien toutes les MJC, dans cet implicite-là, on fait énormément de choses, toutes les MJC. Y compris les MJC que je n'aime pas, vous voyez, je veux dire, je le reconnais à toutes, ça, bon. Et ça, c'est sacré, bon. Alors, mais il faut expliquer là ce qu'on veut faire, c'est-à-dire qu'il faut que la fédération, à tout moment, soit à même d'expliquer ce qu'elle veut faire, nous voulons quoi. Donc, c'est à toute une partie de notre intention, qui est justement de dire une MJC, pourquoi, et une fédération, pourquoi, parce que si on ne le dit pas, on ne le redit pas, les gens qui arrivent n'ont pas cette histoire. Hein. Ils n'ont pas cette histoire. Enfin, il y a toute une partie sur la MJC comment ? Parce qu'on estime qu'il doit y avoir un invariant des MJC de n'importe quelle MJC par rapport à son action. Il y a un certain nombre d'invariants, que l'on soit en quartier riche, en quartier pauvre, à la campagne, à la ville, de toutes les MJC. Il doit y avoir des invariants. Et ça, c'est ce qui va permettre à un professionnel, directeur, animateur ou autre, de savoir ce qu'il a à faire. Ça, c'est un premier point. Et si on fait ça, on fait œuvre pour la fédération, ses bénévoles et ses salariés. C'est ça qu'on a voulu faire. On a voulu revisiter le projet de l'MJC et je trouve que c'est un beau travail que l'on a fait. Je ne dis pas ça pour avancer parce que c'est une œuvre qui peut servir à tous. Le document qu'on a fait, j'espère qu'en dehors du congrès, il peut permettre à plein de gens, vraiment, je pense,
de découvrir. Moi, il y a des animateurs qui m'ont dit, hein, qui m'ont dit, ben là, on a découvert des choses. Voilà. Et je pense que si ça peut au moins se servir à ça.
On peut peut-être le nommer, ça s'appelle Pour ouvrir un autre avenir au MJC rassemblé. Donc, c'est la contribution de la CGT, des MJC. Et il est vrai. De France, vous voulez préciser.
Ouais.
Voilà. Et que du coup, il est vrai que, voilà, bon, ouais, je me suis amusé à le lire pour préparer cette émission. Déjà, ne serait-ce que les encadrés, enfin, la technique utilisée pour rendre visibles les choses, c'est vrai que, bon, on va direct à l'essentiel. C'est plutôt pas mal, c'est vrai. Après, maintenant, alors, est-ce que tout le monde se retrouvera là-dedans? Il y a ce truc, c'est tout. Voilà. Ça sera toujours compliqué, mais je vous en prie.
Par rapport à la région Île-de-France, maintenant, bon, nous, notre contribution est la suivante. C'est le fait de dire justement on fonctionne à l'horizontale. On est depuis toujours, et c'est une singularité du syndicat CGT dans les MJC, on a toujours revendiqué une co-gestion. Alors que le syndicat CGT ailleurs ne le revendique pas. En général, à l'échelle nationale, c'est le syndicat CFDT qui ne demande pas. Et curieusement, chez nous, la CFDT n'en veut pas et la CGT veut une co-gestion. Ça, c'est historique, c'est une singularité. Moi, pour moi, co-gestion, ça veut dire gérer ensemble. Ça veut donc dire que les salariés prennent leur responsabilité dans la gestion. C'est notre outil de travail aussi qui est en jeu. Ce n'est pas seulement un outil éducatif au service de la population, c'est pour nous aussi notre outil de travail. Bon. On dit quoi? On dit en effet, aujourd'hui, par rapport au personnel qui travaille à la fédération, on lui demande une mission impossible. Vu le nombre de gens qui travaillent au siège, et la tâche qu'ils ont à résoudre sur un territoire qui fait 12 millions d'habitants, on leur demande une mission qui est impossible. Première chose, donc, il faut donc définir des priorités et définir les impasses que l'on dit. Je pense qu'il en va de la santé aussi de ces personnes aussi. Parce que dans les gens qui risquent un burn-out, à mon avis, eux, ils risquent aussi. Très largement. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point ensuite, donc, c'est le fait de dire la fédération, ce n'est pas que les gens au siège. Et là, je parle du personnel fédéral. Donc, Georges a eu raison de dire, oui, dans le personnel fédéral aujourd'hui, c'est lié au DSP. Bon, c'est un changement. Il y a aujourd'hui des animateurs piano, guitare, des femmes de ménage, des secrétaires, il y a plein de métiers différents. Il n'empêche qu'il y a aussi des cadres qui sont les directeurs, et là, il en va de leur responsabilité. Ils ont une responsabilité par rapport au projet de cette fédération. Nous, on demande que les cadres qui se soient mis dans leur contrat de travail participent au développement et à la mise en place d'une politique fédérale. Mais et c'est là-dessus qu'il y a une demande très concrète de notre part. Il est clair qu'en échange, ce n'est pas de l'argent qu'on en a, ce n'est pas du salaire. En échange, c'est justement une participation à la décision. La co-gestion, voilà, pour nous, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus raisonner selon le schéma vertical. Vous savez, le conseil d'administration élu avec un président qui prendrait des décisions politiques et qui ensuite serait mise en place par les salariés. Vous voyez, je veux dire, bon, d'abord, est-ce que le conseil d'administration est à même d'exercer tout seul cette réflexion? Est-ce qu'il n'a pas besoin d'autres gens? Et dans les autres gens, c'est pléthore, hein, c'est aussi les MJC, c'est le local, c'est les professionnels, c'est des aides extérieures, c'est des personnels qui à l'amitié, c'est bon, plein de gens, premièrement. Et ensuite, je veux dire que lorsqu'on agit, on agit aussi ensemble. Pourquoi on serait ensemble là pour faire les mariages, quoi? Et pourquoi est-ce qu'on ne serait pas ensemble à réfléchir? Vous voyez, je veux dire, et à prendre les décisions. Donc, voilà, il faut arrêter avec ce schéma qui a vécu, non pas le schéma associatif, l'outil associatif permet tout, contrairement à ce qu'on pense. C'est un outil très fiable, très souple, qui permet toutes les formes d'organisation interne, mais aujourd'hui, il faut vraiment réfléchir à la démocratie. Il y a dans cette fédération un déficit démocratique qui s'exprime justement par une non-expression. Moi, je ne sais pas ce que pense cette fédération. Cette fédération doit produire du discours et de la réflexion. Et là-dessus, je partage tout à fait l'analyse de l'UNSA. Notre principal moteur de développement pour nous, c'est recherche, formation, développement. Voilà, une fédération, ça doit être un leader de la recherche et de la formation. Oui, en effet, on avait réfléchi à la fédération à la façon d'un institut de formation, d'un institut. Donc, je partage complètement cette idée en termes de développement. Je pense que c'est le principal développement vers lequel il faut aller parce que tout part de là chez nous. Quoi. Voilà un peu ce que je voulais dire.
Merci Max Regem pour la société donc, de nous avoir donné vos intentions en tout cas. On l'a bien compris, donc cogestion d'accord dans cette dimension et avec les axes dont vous avez parlé, recherche, développement, tout de suite. Institut, il y a un moment où justement moi ça me fait penser à quelque chose. Et il y a un parallèle et après je vous donnerai la parole Carole et Daniel pour parler justement de vos intentions. C'est que je m'interroge par rapport justement à la création des MJC, Fédération des MJC, Confédération, et ainsi de suite, par rapport à un autre organisme qui fait aussi un peu d'éducation populaire, mais pas forcément sur le même registre, qui font les missions locales. En fait, c'est assez intéressant parce que j'ai été amené à... Vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre. Ne vous inquiétez pas. L'idée n'est pas de faire un opposé ou un parallèle. C'est juste de prendre historiquement ces associations. Et si on prend le démarrage, on va dire, par rapport aux missions locales avec Bertrand Schwartz, qui fait un rapport et qui dit il faut mettre en place des missions locales qui permettront de remplir l'INANER et d'insérer les jeunes socialement. Donc, tout ça est très bien, on se calme. Force est de constater, parce que moi, par rapport à tout ça, j'estime qu'en tant qu'animateur MJC, il est important de couvrir un certain nombre de panels et de compétences et de connaissances essentielles pour pouvoir répondre aux besoins des populations. Et dans cette dimension-là, j'étais amené à travailler beaucoup avec les missions locales. Je travaille alors toujours avec les missions locales. Je travaille à la construction d'une web radio nationale dans une dynamique d'insertion sociale et professionnelle. Donc, en mettant, du coup, mélangeant nos réseaux, d'accord, qui me semble essentiel, puisqu'on a une cible commune. Hein. Donc, voilà. Après, peu importe les désaccords, il n'empêche qu'on a une cible commune, même si ce n'est pas une cible. On va dire que c'est un enjeu commun. Et qui, pour moi, pourrait se résumer très succinctement au bien-être des jeunes et leur situation et leur place dans l'avenir. Quoi qu'il en passe, voilà ce qui s'est passé juste pour cette petite organisation qui s'est donc créée dans les années 80. Nous, ça remonte à bien plus longtemps, d'accord. Il y a une institut, l'Institut Bertrand Schwartz, qui s'est créé d'une volonté de l'Union nationale des missions locales. Donc là, c'est juste en résonance avec ce qui s'est dit tout à l'heure, la volonté, notamment au niveau de la CGT, de vouloir l'union, même limite l'union nationale au niveau des MJC, et de prendre ce comparatif d'une action, aussi d'un courant de pensée, puisque Bertrand Schwartz avait aussi sa façon de penser, il n'est pas tout seul dans cet acte-là, mais voilà, il y a eu une réaction qui a été beaucoup plus rapide par rapport à celle de la CGT, sans mettre en opposition, mais en tout cas, on va dire. Une volonté différente. Et j'aimerais comprendre, du coup, pourquoi c'est si compliqué ou si long de pouvoir travailler ensemble, alors qu'à la base, on ne va pas dire qu'on est pour le sida, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et que, moi, j'entends beaucoup dans les discours à la bonne conscience de machin, mais pratico-pratique de terrain, je peux vous garantir, entre guillemets, que si vous n'êtes pas formé, c'est très compliqué de pouvoir répondre à différentes problématiques. Surtout quand vous êtes, pour le coup, salarié, et que vous êtes face au quotidien. Voilà, et ces fameuses urgences qu'on a définies tout à l'heure. Et cette notion de service tout de suite, le tout de suite. Voilà, on est dans un truc où, à l'heure actuelle, voilà. Et nous, en tant que professionnels, pour le coup, il y a des moments où on peut se sentir aussi bien fragilisé. Mais quand on exprime, ou qu'on n'arrive pas forcément à l'exprimer aussi à nos institutions ou à nos instances, comme notre conseil d'administration, qui ne va pas être forcément dans la même logique, on va se retrouver en situation de conflit. Mais c'est aussi ce qui fait avancer la société, ou en tout cas l'entreprise, ou l'association dans laquelle on est. Mais simplement, ce petit parallèle, moi, me paraissait intéressant de noter le point, parce qu'il y a une volonté d'union, il y a une volonté de recherche. Ouais. L'Institut Bertrand Schwartz a lancé la recherche action collective, qui est une dimension du national, qui est un acte posé, et chacun s'engage, alors avec des intentions, avec des amendements, avec des contributions, avec tout ça, vous voyez ce que je veux dire. Sont déjà en marche avec des jeunes qui sont porteurs. Moi, je pose la question, pourquoi nous n'y arrivons pas? Par exemple, voilà. Je vais laisser la parole à Carole pour, là, pour le coup, qu'on revienne sur vos intentions, parce que moi, ce qui m'a intéressé par rapport à vos intentions, alors, c'était extrait, ce que je veux dire. Il y a 40 points ou 60 points
30.
Qui sont à peu près la moitié des 60 propositions de François Hollande pour son élection présidentielle. Non, mais c'était pas parce que je trouvais ça très intéressant. Mais... donc, du coup, voilà, quelles sont vos intentions très concrètement par rapport à votre groupe, je ne sais pas comment le. Voilà, ou vos individualités, qui ne sont pas la représentation de la fédération, vous avez compris. C'est bien un titre individuel que vous faites, mais d'une manière collective. Oui, bien sûr. D'accord, c'est ça? Bon. Je vous en prie, Carole et Daniel, c'est à vous.
Ouais, on est un groupe comme tous les groupes qui ont proposé des intentions. Hein, voilà. Ni plus ni moins. Pour ce qui est de ce que nous on propose, alors déjà un petit préambule. On ne croit pas, en tout cas tous les quatre, et je pense qu'on n'est pas les seuls à penser de cette manière-là. On ne pense pas que l'opposition soit destructrice. On pense que le débat, c'est le débat qu'il nous faut. C'est pour ça que l'intention s'appelle tout délibérant. Autrement dit, on peut discuter sans être d'accord. On ne recherche pas forcément le consensus, on cherche la majorité. Comme ça se fait partout. Dans notre vie, de tous les jours, en famille, quand on va au ciné, bah, c'est la majorité qui l'emporte. On n'attend pas d'avoir un consensus, nécessairement. Et par rapport à ce que Max disait tout à l'heure des instances, précisément, je pense que c'est d'autant plus important de le rappeler aujourd'hui. On n'a pas besoin de tous voter comme un seul homme pour que les choses se passent. Donc l'intention qu'on propose, elle est évidemment destinée à être discutée, amendée, reprise, jetée, remixée. Enfin, c'est vraiment la raison pour laquelle on a fait aussi autant de propositions, c'est que bon, d'une part on avait des choses à dire et on en a enlevé plutôt. Donc c'est navré, mais c'est tout à fait ça peut être bien pire quand même. Mais une des raisons pour lesquelles il y a autant de propositions, c'est qu'il y a plein de choses autour desquelles il faut réfléchir et qu'on trouvait dommage de ne pas proposer ce qui nous semblait vraiment important. Après, le processus du Congrès, il est fait pour en éliminer, en rajouter, enfin, on verra. Quoi. C'est pas le schéma où les 30 propositions, ça, on n'en retiendra sans doute pas 30. Hein. Enfin, on est tout à fait d'accord là-dessus. Alors, globalement, tout tourne autour d'un axe, c'est la reconnaissance. En définitive, se faire reconnaître par les territoires, reconnaître nos adhérents, reconnaître nos professionnels, que les professionnels reconnaissent les bénévoles. Enfin, tout ça, c'est un mouvement unique en définitive. Et encore une fois, le tout délibérant, c'est vraiment ça. C'est affirmer qu'on n'est rien les uns sans les autres et que précisément le travail en commun, alors la co-gestion ou autre chose, enfin, y a mille manières d'exprimer les choses, mais en tout cas, tout tourne autour de cette idée simple, c'est que pour être connu, il faut être connu en premier lieu. Alors, se connaître, bah, c'est se découvrir, c'est aller vers des gens vers lesquels on n'irait pas forcément, c'est s'ouvrir à des gens qui ne viendraient pas forcément à nous, et ça à tous les niveaux. Alors, le niveau le plus instinctif, effectivement, c'est l'adhérent. Alors, nous, on propose une des choses auxquelles moi je tiens particulièrement sur cette intention, c'est cette idée que tout le monde sur un territoire est adhérent. Implicite d'une MJC. Alors, la question, c'est de savoir comment on va articuler de manière à ce que cet implicite devienne de l'explicite. Et toute la question de l'accueil, de comment on s'ouvre, moi, c'est dans une MJC qui travaille son projet à soi en ce moment, et la grosse question, c'est autour de l'accueil. Alors, l'accueil, ben, non, c'est pas forcément un bureau, c'est autre chose, ça peut être autre chose, ça doit être autre chose. Donc, voilà, pour moi, cette question, c'est une des questions centrales. La deuxième question qui, moi, me tient particulièrement à cœur, singulièrement, c'est la question de la jeunesse. Parce que, effectivement, s'il y a 41% des gens qui fréquentent nos lieux qui ont moins de 26 ans, bah, il y en a nettement moins qui fréquentent le CA. Je ne parle même pas du CA fédéral, hein, parce que je ne veux pas être grossière. Mais moi, quand je vois mon CA de maison, enfin, c'est juste hallucinant de voir qu'on est 14 et que sur 14, il y a un jeune.
Vous dites d'ailleurs, en intention, la proposition, c'est instaurer un quota de moins de 26 ans dans tous les conseils d'administration.
Ça fait parler, hein. Non, mais le truc, c'est aussi que c'était la controverse. Hein, donc, c'est une proposition qui est bien ou mal reçue.
Ça va de lien avec la proposition 4 qui dit l'abaissement de l'âge minimum du droit de vote dans les MJC.
Bien sûr.
Je voulais vraiment renouveler. Les choses, c'est logique, ouais.
Moi, je fais un constat tout bête sur le terrain, c'est que dans le CA de ma maison, par exemple, on va écumer les cours de danse, les cours de forme, machin et tout, pour trouver des adultes qui ont envie de siéger au théâtre de la maison. Puis à côté, on a des jeunes qui disent « Ah ben, j'ai pas encore l'âge, mais dans un an, deux ans, trois ans, j'aurai l'âge et je pourrais y aller, et je pourrais dire quelque chose. Ben, » je me dis que là, il y a quand même un truc un peu étrange. Enfin, est-ce que vraiment on est destiné à ne s'ouvrir qu'aux gens qui font de la forme, enfin, je parle de ma maison, là, mais et laisser à la porte les mômes. Enfin, les mômes, c'est quand même, enfin, on s'appelle bien la maison des jeunes et de la culture. La petite photo que j'ai prise là avant, je l'ai mise sur Facebook, hein, et j'ai expliqué que voilà, on travaillait sur l'avenir des MJC. Et j'ai une copine qui n'a rien à voir avec la MJC qui me dit « Ah, mais J, dans MJC, ça veut dire quoi ?» en regardant la photo. Bah, elle a parfaitement raison. Enfin, je pas lui répondre encore. Hein. Après, je vais l'appeler, je pense. Mais c'est une question qui se pose tous les jours. Pour moi, c'est une question centrale de ce qu'on fait. Moi, si je suis dans une maison à dominante culturelle, ben, j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu de jeunesse. Et je pense que c'est la même chose pour le CA fédéral. Quand on a travaillé sur la convention de Strasbourg, parce qu'on a travaillé sur une convention nationale, la Confédération qui s'est déroulée à Strasbourg, on a emmené 2000 jeunes au Parlement européen. Ben là, on ne s'est pas posé une seule fois la question de savoir s'il fallait des jeunes ou pas. Enfin, il faut des jeunes, bien sûr. Une convention jeunesse, ça se passe avec des jeunes. Et si on emmène des jeunes à Strasbourg, ben, il faut les trouver dans nos maisons. Et pour certaines maisons, ça a été très compliqué de trouver des jeunes. Et voilà. Ça, c'est, voilà. Donc, cette histoire d'appropriation par les jeunes, moi, ça me semble évidemment, enfin, ça me semble fou si on ait besoin d'en parler, quoi.
Excusez-moi, si vous voulez me dire.
Exactement ce que je voulais dire, en fait. Je veux dire que c'est étrange qu'on ait besoin de se poser la question de la jeunesse dans des MJC. Ça ne concerne pas l'ensemble des maisons du réseau, bien évidemment. Hein. Mais il y a un certain nombre de... Maintenant que je me penche d'un peu plus près sur la thématique jeunesse, moi, je suis vachement étonnée de voir qu'il y a plein de maisons où on se pose la question de la jeunesse. On a besoin de les chercher. On a besoin de les chercher.
Vous parlez en termes de fréquentation.
Bah, de fréquentation, de prise de parole, d'engagement, de tout. Enfin, je vous assure, il y a plein de maisons où on cherche les jeunes. Mm-hmm. Ou ces actions, peut-être qu'on ne les cherche pas. Donc, ils viennent
peut-être aussi.
Peut-être aussi. Bah, là, effectivement, on est dans une maison qui est dans une configuration un peu particulière, mais il y a plein de villes où la MJC est très loin des équipements publics. Et dans la mienne, par exemple, on est en cœur de ville, mais il se trouve que les lycées, les collèges sont un peu éloignés, donc c'est compliqué de faire venir des jeunes. Et je pense qu'on n'est pas dans les maisons qui ont plus de difficultés par rapport à ça. Donc la reconnaissance des jeunes, ça me paraît évident. Quand je parlais de reconnaissance,
on avait 2 heures, on a dépassé les 2 heures, ça m'étonne pas. Mais bon, voilà. Allez. De toute façon, on est en direct, c'est comme ça.
Ouais, bah, voilà. Une dernière chose sur la reconnaissance des collectivités. Moi, il me semble absolument nécessaire également d'affirmer notre place auprès des collectivités. On ne peut pas se contenter, comme on l'a fait pendant ces années de vaste grâce, de prendre l'argent et puis de faire ce qu'on voulait sur les territoires. C'est vraiment très compliqué. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir le projet de la ville, hein. On n'est pas le service jeunesse. Mais ça veut juste dire qu'il faut qu'on explique, parce que tous les jours il faut le faire, la singularité de nos maisons dans le paysage local. J'ai la chance d'être une maison qui est reconnue, c'est pas le cas de tout le monde, et les maisons qui disparaissent, sans doute, meurent en partie de ce phénomène. Donc, c'est important de travailler avec les villes, les intercommunalités aujourd'hui, et de réaffirmer ce principe. On est des gens incontournables, mais il y a de bonnes raisons pour ça. Et ça, il faut qu'on l'explique. Je laisse la parole à Daniel. Je ne vais pas prendre la parole très longtemps.
Mais vous pouvez, Daniel.
Non. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait un petit peu... Alors,